Nous sommes le lundi 5 septembre. Bonne journée à toutes et à tous, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et c'est donc l'ouverture du procès de l'attentat de Nice en juillet 2016. Aujourd'hui, autre procès hors norme après celui des attentats du 13 novembre. 86 personnes tuées par un camion sur la promenade des Anglais. C'était le 14 juillet 2016. Vous entendrez une rescapée. Dès le début de cette édition, 8 personnes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mais il y aura un grand absent, c'est le chauffeur abattu par les policiers. Et puis l'entrée au collège marque de plus en plus l'arrivée du premier portable dans la poche des collégiens. Il existe des outils pour contrôler et protéger votre ado des contenus sensibles. Explication de Céline Géraud dans ce journal. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un procès qui va occuper une grande place dans l'actualité des prochains jours. Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce soir-là, 86 personnes furent fauchées et tuées sur la promenade des Anglais par le conducteur d'un camion. On relèvera 318 blessés. Il faut y ajouter le traumatisme de milliers de personnes. Valérie fait partie des rescapés. Elle viendra à Paris témoigner à la barre. Elle a accepté de s'exprimer au micro de Frédéric Michel.
Alors ce soir-là, j'y suis allée avec mes 3 enfants. Et quand, après les feux d'artifice, ça a commencé, on a sauté sur la plage. Là, j'ai perdu un genou. Bon, pour l'essentiel de cette soirée, c'est tout ce que je vais vous dire ici. Et depuis, je marche, mais je ne peux pas monter les escaliers, descendre les escaliers. J'ai perdu mon travail.
Vous attendez quoi aujourd'hui, ce procès ?
D'être libérée. Libérée de ce poids qui pèse depuis 6 ans. Les valises sont lourdes depuis 6 ans, donc je vais les poser. Je vais porter mon témoignage pour que peut-être il serve à d'autres. En tout cas, il va me servir à moi. Je veux comprendre, même si des zones d'ombre, il y en aura. On ne peut pas comprendre la folie de quelqu'un.
Les voir dans le box des accusés.
Ah, mais je vais même m'adresser à eux. J'ai prévu pour leur dire qu'ils n'ont pas de place dans mon monde. Donc il n'existe pas pour moi. Peut-être quand j'aurai laissé mes valises là-bas, j'aurai peut-être plus de courage pour retourner sur la promenade. Et du coup, voilà, ma ville sera de nouveau ma ville.
Valérie, une rescapée de l'attentat de Nice, témoignage recueilli par Frédéric Michel.
Alors un procès qui va se dérouler sans le principal accusé, le terroriste, puisqu'il a été abattu au volant de son camion par les policiers.
8 personnes figurent au rang des accusés, 7 seront dans le box, la huitième est en fuite. Aucun n'est jugé pour complicité d'assassinat, même si l'accusation l'affirme. Ils savaient tous qu'il se tramait quelque chose. Plus de 800 parties civiles seront présentes à ce procès hors norme. Frédéric Michel.
Dans le box, 6 hommes et une femme. Un 8e accusé sera jugé par contumace. Il est en fuite. Un autre s'est suicidé en prison. D'origine franco-tunisienne, tunisienne et albanaise, aucun des accusés n'est poursuivi pour complicité. 3 d'entre eux, des proches de Mohamed Laouesh Boulel, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour la justice, ils étaient conscients de la radicalisation de leur ami et de sa fascination pour l'extrême violence. Quelques mois plus tôt, un ami, Chokri Chafroud, lui écrit même dans un texto « Charge le camion de 2000 tonnes de fer et coupe-lui les freins. Moi, je regarde. » Les 5 autres accusés sont poursuivis pour avoir facilité la fourniture d'armes aux terroristes, notamment le pistolet automatique retrouvé dans le camion, pistolet avec lequel Laouesh Boulel, dans sa course folle, va tirer à plusieurs reprises. Son profil psychologique, celui d'un homme violent, obsédé sexuel et consommateur de stupéfiants, sera sans aucun doute utilisé par la défense pour minimiser le rôle de leur client et appuyer la thèse de l'acte du loup solitaire. Les parties civiles, avec leurs avocats, ont une autre lecture du dossier et entendent bien prouver la culpabilité des accusés.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice et qui suivra ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il sera en direct dans le journal de 8h.
Un procès pour l'histoire est-il comparable à celui des attentats du 13 novembre ? Maître Gérard Chemelin sera avec nous dans quelques minutes juste après votre journal, Christophe, pour en parler. Il est 7h04, les dialogues de Bercy. Eh bien c'est non, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, voulait associer l'opposition à l'élaboration du budget 2023. Mais voilà que le Rassemblement National et les Républicains refuse d'y participer.
Il y a un lieu pour ça, c'est l'Assemblée, dit le président par intérim du RN, Jordan Bardella. Chez les Républicains qui faisaient leur rentrée politique ce week-end, on ferme aussi la porte, manière de garder la ligne, celle d'une opposition frontale. Éric Ciotti, candidat déclaré à la présidence du parti, le répète, il n'y aura pas de petits arrangements avec la majorité.
Nous sommes dans l'opposition, l'acte budgétaire, c'est l'acte fondateur d'une majorité, que cette majorité se débrouille. Nous ne serons pas la béquille de cette majorité, qu'elle prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres dans l'hémicycle par notre capacité à amender un budget qui repose sur des ruines fumantes d'une politique qui, depuis 10 ans, dépense à tout va l'argent public, sa comté, dégrade nos comptes, accumule les déficits et a construit une dette immense qui aujourd'hui menace notre pays et qui a pris des décisions, notamment en matière énergétique, dont nous allons payer un très lourd prix au cours de cet hiver de fait de l'inconscience du président de la République actuelle et de son prédécesseur, M. Hollande.
Le député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, Éric Ciotti, il était au micro de Victor Chabert.
« Range-moi ce portable, hein. Quel parent n'a pas prononcé cette phrase au moins une fois ? 10 ans et 3 mois, c'est l'âge moyen du premier téléphone portable en France. Ça correspond à quelques mois près à l'entrée en 6e au collège. »
Et à partir du moment, Dimitri, où on ne peut plus lutter pour interdire à son ado d'en posséder un, autant prévenir l'usage qu'il va en faire, c'est logique. Céline Géraud, il existe des outils pour contrôler leur utilisation.
Oui, à commencer par des applications de contrôle parental comme Family Link qui permet aux parents de localiser leur enfant, de paramétrer le temps d'utilisation du téléphone, mais aussi de verrouiller l'accès au site pour adultes. Pour les parents plus permissifs, autre application, un espace sécurisé de coaching digital où l'on responsabilise les collégiens. Grégory Véret, fondateur de Xulu.
Pour un élève de 6e, on lui propose un coach qui va lui permettre d'apprendre à gérer lui-même ses usages numériques et à gérer lui-même son temps d'écran. Plutôt que de le bloquer, on va lui apprendre à se gérer. Une fois qu'il a appris à se gérer, il va garder ça tout au long de sa vie.
Enfin, l'éducation nationale lance le programme Internet sans crainte avec le hashtag Bienvenue les 6e, des clips, des outils à disposition des collégiens pour une meilleure sensibilisation aux réseaux sociaux.
Il ne faudrait pas que ta vie en ligne t'empêche de vivre ta vraie vie. Quand tu postes une photo de toi en slip en train d'imiter Tarzan en t'accrochant au rideau, rappelle-toi que cette photo pourra être vue par tes amis, par les amis de tes amis et par les amis des amis de tes amis.
Et pour les familles, d'autres vidéos et des kits pédagogiques gratuits sont disponibles sur le site de l'opération.
Céline Géraud, chef du service économie d'Europe 1.
Allez, on part aux États-Unis. La Californie craint la panne électrique en raison d'une forte vague de chaleur.
Les températures dépassent les 50 degrés dans certaines villes. Le réseau réputé pour sa fragilité est sur le point de lâcher. Seule solution pour les autorités, demander aux Californiens de réduire leur consommation. La requête concerne aussi les voitures électriques à Vivafried. Prière de ne pas les recharger pendant les heures de pointe.
Oui, la Californie est en plein milieu d'une vague de chaleur. À Death Valley, le thermomètre a atteint 52 degrés. À Los Angeles, on est autour des 40. Et forcément, tout le monde a allumé son air conditionné, ce qui met le réseau électrique sous pression. Un réseau vieillissant, vétuste, et donc qui a du mal à faire face à cette demande supplémentaire. Les responsables des compagnies électriques ont averti qu'il y avait un risque de coupure, ce qui arrive régulièrement dans l'État. Les usagers sont appelés à ne pas trop utiliser l'électricité aux heures de pointe entre 16h et 21h et donc à ne pas charger leur voiture électrique à ces heures-là. Une demande qui tombe plutôt mal. Il y a une semaine, la Californie a annoncé qu'elle interdisait la vente de voitures à essence à partir de 2035. Mais si son réseau est incapable de fournir l'électricité nécessaire, ça va être compliqué à mettre en place. Ce qui fait dire à beaucoup ici que l'État a peut-être mis la charrue électrique avant les bœufs. Il faudrait d'abord moderniser le réseau avant de passer aux voitures toutes électriques.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parle de voitures électriques, Dimitri, en France, la quasi-totalité des autoroutes seront équipées d'au moins une borne de recharge d'ici la fin 2023. Enfin, le Royaume-Uni connaîtra aujourd'hui le nom du successeur de Boris Johnson. Le résultat du vote des 200 000 membres du Parti conservateur sera dévoilé dans la journée. Liz Truss fait figure de grande favorite.
Voilà son portrait tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouette. Le tennis, une Française en quart de finale de l'US Open.
Et Caroline Garcia se qualifie en 2-7 face à l'Américaine, risque arbitrage. Première fois qu'elle atteint ce stade à l'US Open. Surprise dans le tableau masculin avec l'élimination du tenant du titre et numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, battu par l'Australien Nick Kyrgios.
Eh bien, il s'en passe des choses, décidément, à New York. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. Dans un instant, sur Europe 1, restez avec nous. Maître Gérard Chemla est avec nous pour nous parler de ce procès des attentats de Nice qui s'ouvre aujourd'hui.
7h, 9h,
Europe Matin.
7h12, le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
86 morts, 318 blessés. Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, dans la salle construite pour le procès des attentats du 13 novembre. Le gouvernement demande à la SNCF de faire des économies d'énergie, mais pas de faire circuler moins de trains. Précision ce matin du ministre des Transports. La SNCF qui est appelée à prévoir des plans d'urgence en cas de pénurie d'énergie, car elle consomme plus que les villes de Paris et Marseille réunies. Les 50 000 ATSEM françaises qui assistent les enseignants de maternelle appelées à la grève aujourd'hui, elles réclament une hausse des salaires et un dégel du point d'indice de 10% au moins.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
À peine refermées les plaies du procès des attentats du 13 novembre, la justice se penche à partir d'aujourd'hui sur la tuerie au camion de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Je vous en rappelle le triste bilan, l'effroyable bilan, 86 morts, 318 blessés, plus de 800 parties civiles aujourd'hui, et je ne compte pas toutes les personnes témoins et traumatisées. Bonjour maître Gérard Chemla.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, vous allez représenter des familles lors de ce procès qui va se dérouler donc pendant 3 mois devant la cour d'assises spéciale à Paris. Alors première question un peu technique, pourquoi ça se passe à Paris et pas à Nice, maître Chemla?
La question reste ouverte, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué pendant la phase de préparation qu'on n'était pas capable à la fois d'avoir une salle et d'avoir la sécurité nécessaire. Finalement, le maire de Nice s'est battu pour avoir une salle de retransmission. Il a bloqué le palais des congrès. Et je pense qu'on aurait peut-être pu le faire à Nice. C'est à Paris. Il y a une salle qui est bunkerisée au sein de la cour d'appel. Donc c'est assez sain. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les victimes niçoises.
Donc c'est le même endroit que là où a été jugé le procès des attentats du 13 novembre. Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on va être dans le gigantisme qu'on avait connu pendant le procès V13? Parce qu'évidemment, la comparaison, on a tout de suite envie de la faire, maître Chemla. Est-ce qu'elle est opportune d'ailleurs, cette comparaison entre ces deux procès?
Alors, ces deux procès, ils arrivent l'un à la suite de l'autre. Ils sont meurtriers, cruels. Mais la comparaison va s'arrêter là sur les attentats. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez sur V13 des commandos qui avaient été formés en Syrie, des hommes entraînés et extrêmement organisés. À Nice, nous avons un homme qui est seul lorsqu'il agit et nous ne jugerons que ses amis et les gens qui lui ont fourni des armes. Ce qui fait que, certes, ce sont des attentats dans les deux cas, mais on appelle ça un attentat projeté, c'est-à-dire que c'était l'idée des Syriens de Daesh qui était d'expliquer qu'il fallait à tout prix attaquer les Français. Donc c'est inspiré par Daesh, mais ça n'est pas organisé par Daesh et c'est extrêmement différent.
Comment les avocats, comment l'avocat que vous êtes, prépare-t-il, maître Chemla, les parties civiles à vivre ce procès? Parce que vous l'avez dit, il y a des différences, et notamment il y a un fossé absolument terrible entre la douleur ressentie, cette avalanche de douleur qui va être exprimée, et le caractère, comment dire, très secondaire, accessoire pratiquement des personnes qui vont être jugées.
La première chose que j'essaye de faire, c'est de permettre aux victimes d'apprivoiser ce qui va être leur procès, parce qu'elles ne se rendent absolument pas compte, elles sont devant une espèce de montagne, elles ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Ensuite, on essaye de les préparer à la frustration qu'est un procès, à la frustration que sera nécessairement ce procès, puisque nous n'aurons pas de complices ni d'auteurs, simplement des personnes accusées d'association de malfaiteurs. Et donc, nous leur expliquons autant que possible que le plus important dans le procès va être leur parole. Ils sont là pour ça.
Procès catharsis.
Alors c'est en tous les cas le partage de quelque chose qui les réunit toutes ces victimes. Et à mon sens, un moment de communion avec la France entière et avec les juges. On va exprimer publiquement, de façon organisée, ce qu'il s'est passé, ce qu'ils ont vécu et le traumatisme qui demeure.
Oui. Il y a deux grands absents à ce procès, maître Chemla. Alors évidemment, le terroriste lui-même, on l'a dit, abattu par les policiers ce 14 juillet 2016. Et puis, il y a aussi le djihadiste qui a revendiqué l'attentat pour le compte de l'État islamique. Cet homme, il est aux mains des Kurdes depuis plus de 4 ans, n'a jamais été interrogé par la justice française, malgré les demandes répétées des avocats des victimes. Comment cela se fait-il?
Alors, j'ai effectivement fait la demande pour l'audition d'Adrien Guial. On est parti du principe qu'il s'agissait d'une revendication d'opportunité, c'est-à-dire que...
On en est sûr de ça?
Écoutez, j'ai fait citer les personnes qui ont travaillé sur cette question. J'ai demandé qu'elles viennent comme témoins, et ce sont des questions que nous allons poser.
Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'attentats projetés, sur le même... Il va y avoir ce débat. Est-ce que le terroriste, c'était de ce djihadisme d'atmosphère, ou bien est-ce que véritablement c'est une action commanditée depuis l'extérieur?
Le procès va nous répondre. Oui. Maintenant, l'instruction, elle, nous montre une personne seule, radicalisée depuis peu de temps, qui n'est pas dans un milieu djihadiste. Et donc, le terme d'attentat projeté est déplacé, c'est un attentat inspiré, c'est-à-dire qu'il a à la fois utilisé ses penchants personnels pour l'ultra-violence. C'est quelqu'un qui était manifestement pervers et adepte de tout ce qui pouvait être violent, et il les a mis au service de la cause.
Et par ailleurs, Mohamed Lawesh Boulel, on n'avait pas prononcé son nom jusque-là, le terroriste, chose assez frappante dans cet attentat, jamais un terroriste n'aura semé autant d'indices autour de lui, à commencer par ce téléphone que l'on retrouve à côté de lui dans le camion, dans lequel sont nommés ses complices, il y a des adresses, etc. etc. On n'avait jamais vu ça, Maître Chemlin.
Alors, ce seront les avocats de la défense qui vont essayer d'expliquer que ces indices ne sont pas crédibles et qu'il a fait ça pour mettre en cause des proches qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé. Ça va être un des points du débat. On a vu ça quand même. Hein. On a vu la carte d'identité des frères Kouachi qui étaient restés dans la voiture. On a toujours vu des personnes qui sont finalement dans... après l'attentat, il ne se passera plus rien et je n'ai aucune précaution à prendre. Mais c'est vrai que ces textos qui mettent en cause ses amis vont nécessairement faire parler.
Il est question d'entendre au cours de ce procès l'ancien président François Hollande, Bernard Cazeneuve. Ils vont être appelés à la barre de la cour d'assises spéciale. Est-ce nécessaire, pensez-vous, ces auditions?
Alors, moi, je ne vais pas critiquer une initiative qui a été prise par des confrères. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait parce que je considère qu'on ne peut pas comparer Nice à ce qui s'est produit avant. Il est vrai que nous étions dans un rassemblement majeur. Il est vrai que les mesures de précaution... Vous savez, aujourd'hui, il y a des blocs de béton partout, dès que vous avez un rassemblement. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Je ne pense pas que les politiques de l'époque aient grand-chose à nous dire. Maintenant, ils vont nous dire quand même, parce qu'ils étaient aux affaires, ils vont nous dire à la fois l'émotion qu'ils ont eue, ils vont s'expliquer. François Hollande, ce soir-là, était à quelques centaines de kilomètres, et il y a quelques CRS qui étaient autour de lui, qui n'étaient donc pas sur la promenade des Anglais. Donc tout ça, c'est un débat qu'on va avoir. Est-ce que c'était essentiel ? J'ai trouvé que la prestation de François Hollande dans le procès du 13 avait été intéressante. Celle de M. Cazeneuve était, pour moi, apportait moins d'éléments.
Merci Maître Gérard Chemlin.
Merci à vous.
D'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, vous avez dit qu'il y aurait deux grands absents.
Oui.
Il y a 86 absents qu'il faut rajouter. Ce sont les 86 victimes de cet attentat, dont beaucoup d'enfants. Puisque le terroriste a visé de façon intentionnelle les familles, les poussettes et les enfants. Et c'est l'abomination absolue.
Merci Maître Chemlin.
Merci à vous.
Merci à vous. Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Il est 7h20. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors ce matin, vous vous arrêtez sur ce chiffre tombé ce week-end. Le bouclier énergétique, il a coûté 24 milliards d'euros à l'État depuis l'automne 2021. 24 milliards d'euros.
Ouais, c'est un chiffre hallucinant qui a été donné par le journal Les Échos. Alors dans le détail, l'État a dépensé 10,5 milliards d'euros pour limiter l'augmentation des prix de l'électricité à 4%. La baisse de la fiscalité sur le carburant a coûté 7,5 milliards d'euros. Le dispositif d'ailleurs est monté en charge depuis septembre avec... La ristourne à 30 centimes désormais. Et puis le gel des prix du gaz a coûté 6 milliards d'euros à l'État. Alors la stratégie française, elle a sa logique. Elle consiste à transférer l'inflation vers la dette publique. Et cette stratégie, elle fonctionne en matière de soutien au pouvoir d'achat immédiat, puisque l'inflation a légèrement reculé au mois d'août. Elle est passée de 6,1 à 5,8%. Et puis... elle est beaucoup plus faible en France que dans les pays qui nous environnent, 9,1% dans la zone euro par exemple au mois d'août. D'après une étude récente de l'INSEE d'ailleurs, les mesures gouvernementales ont permis de limiter pour les ménages de près de 50% la hausse des prix du gaz et de 30% les prix de l'électricité. Bon, le bouclier tarifaire, il atteint son but, limiter l'inflation.
Alors, cette question maintenant, est-ce que ce bouclier va être prolongé au-delà du 31 décembre? On n'y voit pas très clair.
Non, on n'y voit pas très clair. Le gouvernement hésite et on comprend qu'il hésite parce que cette stratégie du bouclier tarifaire, si elle a permis de limiter l'inflation et de soutenir le pouvoir d'achat, elle a donc un coût hallucinant pour une mesure conjoncturelle, 24 milliards d'euros. Puis-je vous rappeler, Dimitri, que c'est deux fois le budget de la justice et qu'on manque cruellement de magistrats, que c'est pas loin du niveau du budget du ministère de l'Intérieur, alors qu'on manque de policiers et qu'il faudrait les augmenter, ou que c'est l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur, alors que la clé de la prospérité, c'est quand même la maîtrise de l'intelligence et de l'innovation. Ce choix politique nous dit quand même quelque chose de très profond sur notre pays, à savoir que nous préférons le confort fort à l'investissement. Nous préférons le présent à l'avenir, celui de nos enfants en l'occurrence. On aurait pu faire autrement, hein, laisser les prix libres et concentrer les aides sur les plus fragiles avec des chèques ou en tout cas un mélange de ces deux politiques. J'espère d'ailleurs et je pense que c'est cette voie plus sage qui sera choisie après le 31 décembre.
Le coût du bouclier tarifaire, Nicolas, pour résumer, hein, c'est celui de la protection des Français.
Absolument, Dimitri, mais je voudrais quand même vous dire deux choses. Première remarque, nous sommes dans un pays incroyablement solidaire, il faut le rappeler. Hein. Crise après crise, l'État français mutualise les difficultés des Français. Ceux qui parlent de libéralisme à outrance en évoquant le gouvernement et notre pays se ridiculisent un peu plus chaque jour. Et puis, deuxième remarque quand même, c'est qu'on voit un peu l'État comme un Père Noël et le gouvernement entretient ça avec son vocabulaire. Hein. J'ai beaucoup entendu dire le gouvernement protège les Français avec le bouclier tarifaire. Mais non, l'État, c'est pas une abstraction et c'est pas le gouvernement, c'est nous. Hein. Le bouclier tarifaire, ça n'est pas un cadeau du gouvernement, mais c'est un cadeau des futurs contribuables, notamment nos enfants, à tous ceux qui ont la chance de vivre en France en 2022.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est Alban Le Prince pour le journal permanent.
10 morts, 15 blessés hier soir dans des attaques au couteau au Canada. Deux suspects ont été identifiés. Ils sont en fuite, Damien et Miles Sanderson. 6 ans après, début aujourd'hui du procès de l'attentat de Nice, comme un symbole, c'est dans la salle construite pour celui des attentats du 13 novembre qu'auront lieu les audiences. 8 accusés seront jugés. Le terroriste a lui été tué le soir même. C'est le grand jour au Royaume-Uni. C'est à 13h30 que doit être annoncé le nom du nouveau Premier ministre, 2 candidats en lice, Rishi Sunak et Liz Truss. Sauf surprise, c'est la ministre des Affaires étrangères qui devrait être nommée au 10 Downing Street.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Mais c'est l'heure de notre plongée dans les archives d'Europe 1. Il y a 50 ans tout juste, hein, les 5 et 6 septembre 1972, un commando palestinien pénètre dans le village des Jeux Olympiques qui se déroule à Munich, en Allemagne. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
C'est le début d'une prise d'otages qui va faire 11 victimes parmi les sportifs israéliens.
Oui, 8 hommes masqués de foulards noirs, armes à la main, s'introduisent à l'aube dans les logements des athlètes israéliens. Un entraîneur et un haltérophile sont tués dans l'attaque. Certains réussissent à s'échapper, mais 9 sportifs sont pris en otage. Sur place, au sein du village olympique, les premiers témoins racontent.
Il y a 6 ou 7 Palestiniens. Ils veulent un car pour quitter le village olympique, un avion pour quitter le sol de l'Allemagne.
Ce sont 2 femmes de ménage qui ont donné l'alerte après avoir entendu des coups de feu. 3000 policiers arrivent. Le commando palestinien s'appelle Septembre Noir. Il exige la libération de 200 prisonniers détenus en Israël, faute de quoi il exécutera les otages. Le ministre allemand réussit alors à parler avec les otages et on entend ici la traduction de l'interview par son interprète française.
J'ai pu parler avec eux. Ils étaient tous dans une pièce de cet appartement. Les 9 otages et le cadavre de celui qui avait été déjà tué, les otages avaient les pieds et les mains liés.
Un témoignage glaçant qui raconte cette prise d'otage. Finalement, lors les preneurs d'otages obtiennent ce fameux autocar et ils vont prendre la direction de l'aéroport près de Munich.
Oui, mais les policiers allemands ont prévu d'intervenir à l'aéroport pour neutraliser le commando et libérer les otages. Sur place pour Europe 1, il y a Eugène Saccomano. Les policiers ouvrent le feu, une fusillade éclate.
Furieux d'avoir été trompés, les Palestiniens retournent en courant vers les appareils ou se dispersent dans la nature. Un autre lance une grenade sur l'un des hélicoptères qui se met à flamber.
C'est un échec. Tous les otages sont morts. 5 membres du commando palestinien sont tués et 3 autres sont arrêtés. Pendant une bonne partie de la journée, les épreuves des Jeux Olympiques se sont déroulées normalement. Avant d'être suspendues vers 16h, les athlètes sont égoïstes, lance alors le sportif français Roger Bambuc.
Les athlètes ne s'en intéressaient pas du tout. Ou plutôt, s'ils s'en intéressaient, c'était que pour prendre des photos, que pour faire des petits commentaires. Tout ce qui comptait pour eux, c'est que la compétition reprenne le plus tôt possible.
Et la compétition officielle reprendra le lendemain, le 6 septembre 1972.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Allez à suivre dans Europe Matin, je vous rappelle, 8h13. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, est l'invité d'Europe 1, invité exceptionnel à la parole rare. Soyez là. Dans un instant, la météo et le journal.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
14 juillet 2016, l'attentat de Nice, images indélébiles dans nos mémoires. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Dans un instant, nous irons dans cette ville meurtrie où il y a un avant et un après. L'héritière de Margaret Thatcher peut être aux portes du 10 Downing Street au Royaume-Uni. Liz Truss pourrait bientôt devenir première ministre. Résultat connu à midi. Reportage à Londres dans un instant. Et puis, que buvez-vous au petit déjeuner le matin? Eh bien, conseil, posez le café, optez pour le thé noir. On va tout vous expliquer à la fin du journal. Jamais lâcher le café. Bonjour Romain Oquet.
Bonjour à tous. 4 minutes et 17 secondes, la peur, les hurlements et puis la mort. 14 juillet 2016, un camion fonce sur la foule de la promenade des Anglais. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui.
86 morts, 318 blessés et des milliers d'habitants traumatisés.
Ils n'ont rien oublié de cette nuit d'horreur revendiquée par l'État islamique. Une ville marquée mais résiliente qui espère surmonter son chagrin grâce au procès. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Sur la promenade des Anglais, baignée de lumière, les habitants de Nice que j'ai rencontrés ont tous en tête le procès.
C'est important pour les Niçois, oui, parce que ça nous touche. Dramatique ce qui est arrivé, il faut que ça soit sanctionné comme il faut. Il
ne faut pas oublier non plus, c'est un moment par où il faut passer.
Celui qui a fait tout ça, il a été tué, mais il a bien été aidé. Et là, il faut marquer le coup. Hein.
Et même si le procès n'est pas celui de l'organisation de ce 14 juillet, Michel s'interroge.
Comment un camion a-t-il pu passer comme ça sur la promenade des Anglais?
René Colomban possède un restaurant de plage situé sur la promenade des Anglais. Le soir du drame, des dizaines de personnes se sont réfugiées dans son établissement. Lui a tout vécu de cette nuit d'horreur.
C'est une scène de guerre, hein, très dure à évacuer et à supporter. Évidemment, il faut absolument qu'il y ait une réponse pénale et des explications les plus claires possibles pour les familles.
Au Palais des Congrès de Nice, dans une salle de 200 places, le public pourra assister à la retransmission du procès. Les parties civiles, elles, disposeront d'une autre salle à l'écart, pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.
Le procès de l'attentat de Nice qui démarre donc à 13h30 devant la cour d'assises spéciale de Paris et jusqu'au 16 décembre. Une audience sans l'auteur du crime. Le chauffeur du camion a été tué par la police le soir de l'attentat. Quant aux 8 accusé, aucun n'est jugé pour complicité.
Les enjeux de ce procès, on verra ça justement dans le journal de 8h tout à l'heure avec Frédéric Michel en direct. Il est 7h33, ni mobile, ni arme, ni tueur. L'énigme de la tuerie de Chevaline, est nom de cette commune de Haute-Savoie.
Oui, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, les 3 membres d'une famille britannique sont retrouvés morts dans leur voiture. Pourquoi ? Une impasse pour les enquêteurs depuis le 5 septembre 2012. Règlement de compte, affaires d'espionnage industriel, différends familiales, autant de pistes explorées et peut-être enfin un début de réponse. Jean-Luc Boujon.
Rarement dans cette affaire, on avait entendu un discours aussi optimiste. Mais 10 ans après, le mystère Chevaline ne serait plus très loin d'être résolu. Dixit, la procureure d'Annecy, confiante dans le travail scientifique des enquêteurs. Depuis plusieurs mois, en effet, 3 gendarmes travaillent à plein temps sur ce dossier, reprenant toutes les investigations depuis le début, vérifiant tous les scellés. Et les moyens seront encore plus importants d'ici quelques jours, lorsque l'affaire sera transférée vers le pôle cold case de Nanterre. Car le dossier est tentaculaire, 95 tomes, 8000 pièces de procédure et des hypothèses multiples qui, depuis le début, ont dérouté les enquêteurs. Mais aujourd'hui, il semble que ce soit la piste locale qui soit privilégiée. L'une des filles de la famille rescapée de la tuerie, aujourd'hui âgée de 17 ans, a très récemment enfin pu remonter jusqu'au souvenir d'un homme habillé en cuir avec des mains blanches. Surtout, une profileuse britannique a, après lecture de tous les PV, établi un portrait psychologique du tueur. Un homme du cru, solitaire, sans emploi, passionné par les armes ou ancien militaire, ayant commis les faits possiblement pour un motif raciste, avec un profil asocial ou des antécédents psychiatriques, les registres des établissements psy de la région pouvant avoir accueilli ce type de personnes entre 2012 et 2015 ont donc été récemment épluchés. Chevaline, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
7h35 au Canada, la photo de 2 hommes en une des journaux ce matin. 2 suspects toujours en fuite après avoir tué au moins 10 personnes hier. Des attaques au couteau avec une cible, la communauté indigène du pays. Des attaques horribles et bouleversantes, tweet du Premier ministre Justin Trudeau qui a réagi cette nuit.
Et puis retenez ce nom, vous allez beaucoup l'entendre dans les prochaines heures. Liz Truss, probablement la prochaine Première ministre du Royaume-Uni. Rien à voir avec le look déjanté de Boris Johnson.
Oui, ça en tout cas c'est pour la forme, car sur le fond les 2 conservateurs sont sur la même ligne. Liz Truss est même la grande favorite pour remplacer Bojo au 10 Downing Street. Réponse aujourd'hui, grâce au vote des 160 000 militants. Le reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
fidélité à Boris Johnson et volonté de diminuer les impôts, deux raisons principales qui expliquent le succès de Liz Truss auprès des adhérents conservateurs. Tony milite chez les Tories depuis plus de 30 ans, Molly depuis 10 ans. Donner leur voix à Liz Truss a été une évidence.
C'est important d'élire quelqu'un qui a montré de la loyauté au chef du parti, qu'elle soit d'accord avec lui ou non.
Elle va encourager l'exploration en mer du Nord et faciliter l'extraction du gaz de schiste. La sécurité énergétique, c'est crucial, car sans cela, les gens vont mourir parce qu'ils auront froid.
Loin devant Rishi Sunak dans les sondages internes au parti, Liz Truss ne fait pourtant pas l'unanimité. Certains députés et militants lui reprochent son style et ne croient pas à son programme économique, comme Simon, élu municipal conservateur à Londres.
Quand elle s'exprime, on dirait un robot. Elle ne va pas s'en sortir dans les débats face à Keir Starmer. Et je ne lui fais pas confiance. Ce qu'elle promet économiquement, ça paraît irréaliste et ça m'inquiète.
Selon la presse britannique, une dizaine de députés conservateurs souhaiteraient déclencher une motion de censure contre Liz Truss si elle est élue. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Alors Liz Truss, bonne ou mauvaise affaire d'un point de vue français, comparativement avec Boris Johnson? On va voir ça avec Vincent Hervouette juste après. Votre journal, Romane, sait-on ou pas combien de thé boit-elle chaque jour?
Oui, bah, c'est peut-être la question auxquelles Vincent pourra répondre tout à l'heure. Vous savez, le traditionnel tea time, une boisson qui pourrait en tout cas l'aider à rester en bonne santé au 10 Downing Street.
Et oui, de préférence s'il s'agit de thé noir, puisque c'est le remède pour vivre plus longtemps, paraît-il. C'est une étude britannique, bien sûr, qui vient nous le dire. Céline Géraud, pour être en meilleure santé, il faut donc boire au moins 2 tasses de thé noir par jour.
Effectivement, selon cette étude, la consommation régulière de thé noir entraîne une baisse de la mortalité par maladie cardiovasculaire de 13%, et quelle que soit la température, avec ou sans nuages de lait. Contrairement au thé vert, les feuilles de thé noir sont complètement fermentées, il est plus riche en antioxydants et son effet fluidifiant est désormais avéré. Patrick Assiag, président du syndicat des cardiologues en Île-de-France.
En fluidifiant et en prévenant le risque de caillots, il prévient donc le fait de mettre des caillots au niveau des artères coronaires, donc prévenir l'infarctus du myocarde, mais également au niveau vasculaire cérébral. Et c'est cet effet, en diminuant la mortalité, qu'on ne connaissait pas, qui va à l'encontre des idées reçues qu'on avait, que le thé noir étant fermenté était moins actif que le thé vert qui était non fermenté.
L'autre enseignement de cette étude, le thé noir permettrait de limiter la prolifération des cellules cancéreuses avec un effet protecteur contre la démence et la dépression. Rappelons qu'avec 2,3 kg de thé par an et par habitant, les Britanniques sont les champions d'Europe du tea time. En France, nous n'en sommes qu'à 250 grammes.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Donc posez tout de suite cette tasse de café. D'ailleurs, vous buvez quoi le matin, Dimitri?
Plutôt café, en fait.
Alors, je crois que je vous ai déjà croisé avec des chocolats chauds, non? Je me trompe?
Ah oui, les chocolats chauds, évidemment.
Je ne connais pas les bienfaits du Nesquik pour rester en bonne santé. Mais
pourquoi le chocolat? Parce que dans le chocolat, il n'y a pas de caféine. Il faut savoir s'arrêter.
D'accord, très
voilà.
Bien.
Mais
Chacun son truc le matin.
Je retiens la leçon sur le thé noir. Merci beaucoup, Romane. C'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure à 9h. Dans un instant, on a déjà parlé de lui. Vincent Hervouet est en place. Nous allons parler de cette Liz Truss qui va arriver à Downing Street, probablement
7h39. 7h, 9h,
Europe Matin.
7h41 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
Un procès hors norme aujourd'hui, celui de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts. Il s'ouvre à la cour d'assises spéciale de Paris dans la salle d'audience construite pour le procès du 13 novembre. C'est la maison de l'horreur. Un couple du Pas-de-Calais sera jugé en janvier prochain pour violence et carence éducative après la découverte mardi par la police de 2 de leurs 10 enfants ligotés à des chaises hautes dans une situation d'hygiène déplorable. Du tennis, avec l'exploit de Caroline Garcia à l'US Open, la Française se qualifie pour la première fois en quart de finale du majeur new-yorkais. Elle sera opposée demain à Coco Gauff.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
7h42 sur Europe 1, dans un instant, notre page culture, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri.
Voilà, alors on a terminé Missouri, que vous nous avez recommandé vendredi. On va passer à
Jersey, l'île de Jersey. Vous
allez
voir.
Pas très loin.
Mais pas comme on l'imagine.
Ah oui, il paraît que c'est un endroit un peu triste. Enfin, comme on est un peu glauque, même.
Un petit peu.
Sous la plume de Maud Simoneau, donc, qui revient. Et les séries avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
Cette semaine, au programme.
Eh bien, je vous parle d'une tragique comédie britannique de haute volée. Vous allez aimer.
Décidément, nous sommes très britanniques en ce lundi. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Alors, Royaume-Uni donc, les adhérents du Parti conservateur ont voté pour désigner leur nouveau chef et donc le nouveau Premier ministre de Sa Majesté. Ils avaient le choix entre deux poids lourds du gouvernement Johnson, hein, la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Liz Truss, ou bien l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, et le résultat va tomber à midi. C'est Liz Truss qui fait figure de favorite. Hein.
Oui, alors si vous avez aimé détester Boris Johnson, sera encore mieux avec Liz Truss. Son nom est pittoresque. Alors on écrit Truss, mais on dit Truss. Hein. C'est un nom très pittoresque. C'est sa seule fantaisie. Et encore, ce nom est faux. Elle s'appelle en fait Marie-Elisabeth Truss. Pour le reste, si Bojo aimait faire le clown et assurer le spectacle au G7, il n'y aura pas de cirque Truss. Ses sourires sont minces, son ton sans réplique. Elle aime déplaire. Elle est capable d'écrire, alors même qu'elle est ministre, les Britanniques sont les plus fainéants au monde. Elle est dure à cuire, dure comme fer, fer comme la dame de fer, Margaret Thatcher. Elle ne se contente pas de porter le même chemisier en soie avec Lavalière, très old fashion, ou de coiffer une chapka sur la place Rouge, son modèle comme son modèle. Elle a passé l'été à défier les syndicats, comme si elle voulait mettre les mineurs sur le carreau, comme il y a 40 ans, alors que les grèves sauvages se multiplient dans les transports, les postiers, les dockers, alors que l'émeute gronde en Grande-Bretagne, que l'inflation galope, que la livre dégringole. Face au chaos qui vient, Liz Truss annonce des baisses d'impôts tout de suite. Elle a été fidèle à Boris Johnson, mais elle va faire le contraire de sa politique économique. Elle promet aussi de tailler dans le vif dans la bureaucratie.
Et c'est un programme très conservateur. Hein.
Une Anglaise qui roule à droite, on n'aime pas ça en France. Surtout qu'elle est blanche, qu'elle est blonde, qu'elle est hétéro, qu'elle est anglicane. Alors que son rival, petit-fils d'immigrés et hindou, incarne la diversité. En même temps, Rishi Sunak est une caricature de ministre de droite à la française, un technocrate donneur de leçons et prêt à planter un couteau dans le dos de son mentor, comme il l'a fait avec Boris Johnson. Liz Truss est une femme de droite et le pire, c'est qu'elle ne l'a pas toujours été. Elle a été élevée dans une famille progressiste, gauchiste. Elle défilait pour le désarmement nucléaire. À Oxford, elle a viré Lib Dem, c'est-à-dire centriste, avant d'adhérer au Parti conservateur. Elle est en fer, mais comme les girouettes. Elle était contre le Brexit, elle s'y est ralliée. Elle a applaudi à l'accord avec Bruxelles, mais elle refuse de l'appliquer. Elle soutient la révision unilatérale du protocole sur l'Irlande du Nord.
Ça ne va pas être simple en politique étrangère. Hein.
Oui, elle est atlantiste, mais en fait toute l'Europe l'est désormais. Elle a paradé sur la tourelle d'un char en Estonie. Elle a encouragé les Britanniques à aller se battre en Ukraine. Elle a fait convoquer au Foreign Office il y a 15 jours l'ambassadeur de Chine qui avait protesté contre la visite à Taïwan de Nancy Pelosi. C'est un faucon, mais c'est une vraie sotte quand elle ose se demander publiquement si Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Depuis la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, Paris et Londres sont des alliés stratégiques. Faire semblant d'en douter à cause de querelles sur les quotas de pêche ou parce qu'un millier de migrants a débarqué samedi du côté de Douvres, c'est manquer de professionnalisme. Je vous l'avais dit, les Français vont adorer, détester Liz Truss et sans doute qu'ils auront parfois raison.
Merci beaucoup Vincent, 7h46.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Alors Nicolas Caron, on reste dans le secteur de la Manche. Absolument. Avec vous, puisque là vous nous emmenez dans un magnifique paradis fiscal.
Oui, mais pas pour y cacher de l'argent, pour suivre l'intrigue du nouveau roman de Maud Simoneau aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle « L'heure des oiseaux » et l'histoire se passe sur l'île de Jersey. Il y a deux temporalités, accrochez-vous, 1959 et de nos jours. Alors Jersey, bon, j'ai dit paradis fiscal, mais quand même, c'est d'abord une image de beauté maritime, de paradis tout court. Pas dans ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme de nos jours donc, qui se rend sur cette île pour en savoir plus sur l'histoire de son père. Un père un peu taiseux qui ne raconte pas tout de son enfance, même si on sent que la mémoire est lourde.
Alors, il y a 1959. Hein.
Alors, en 1959, il y avait sur cette même île un orphelinat. Mais l'idée qu'on se fait d'un orphelinat dans les années 50, c'est pas la joie. Et on suit Lily et un petit garçon, son copain, qui s'épaule et s'entraide face à des surveillants méchants qui ont fait de Lily leur souffre-douleur. La narratrice enquête donc, 60 ans plus tard, mais elle a du mal à trouver les témoins de l'époque et quand elle interroge les Iliens, silence total, il faut dire que le sujet est tabou, l'orphelinat est fermé depuis longtemps et des ossements avaient été découverts en 2008, 30 ans après sa fermeture. D'ailleurs, ça c'est pas le roman, c'est la réalité.
Oui, c'est la réalité. Ouais.
La presse s'en était emparée, bref, là-bas, on aimerait bien oublier cette histoire si possible.
Donc elle n'est pas bien reçue, on imagine.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais elle ne se laisse pas démonter, elle continue à enquêter et on visite avec elle Jersey et son histoire. Au passage, elle nous nous parle de la bête de Jersey. C'est une affaire incroyable et vraie aussi. Des années 60, une série d'agressions sexuelles commises la nuit par un homme portant des bracelets à clous et un masque hideux. Ça a duré pendant 10 ans, mais dans l'intervalle, on a accusé un marginal, Alphonse Le Gastellois, relâché faute de preuves et considéré comme coupable quand même par les habitants jusqu'à ce qu'on arrête le véritable agresseur. Le Gastellois a fini par se réfugier traumatisé sur l'archipel désert des Écréous à côté et s'est proclamé roi des Écréous.
Non mais l'histoire, la réalité dépasse la fiction.
Exactement.
Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Hein.
Et beaucoup de poésie et aussi le chant des oiseaux, comme le titre l'indique. Pourtant, il est très court, 150 pages. Et puis, c'est un roman à révélation finale. Vous savez, à la dernière page, on fait « Ah !»
Ah oui, parce que vous m'avez dit ça. Et je me demandais si c'était un « Ah !» de stupéfaction
non,
ou d'horreur.
Non, c'est de surprise, de stupéfaction, de contentement, de tout.
L'heure des oiseaux, donc, de Maude Simoneau. Elle avait été, je crois, lauréate du...
Sélection Goncourt il y a 3 ans.
Goncourt des lycéens, je
Exactement,
crois bien.
Exactement, pour l'enfant céleste, si ma mémoire est bonne.
Ah ben voilà, en 7 ans de prix littéraire. Tiens, je vous l'annonce, vendredi, vous avez connu nos vendredis thématiques sur l'école. Ce vendredi, celui qui vient, on parlera justement de la rentrée littéraire et de la place du livre en France. Vous serez évidemment à mes côtés, mon cher Nicolas. Ah bah tiens, du livre à l'écran, Héloïse Goy. Vous nous parlez en ce lundi, bah comme tous les lundis, de séries télé. Alors qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine ?
Alors parce que je crois qu'à peu près tout le monde aime rire, Dimitri. Parce
non,
que aussi,
pas moi,
à
pas
peu
moi.
Près,
Vincent
j'ai dit.
Arrête non plus,
vous
hein,
n'aimez pas du tout rire.
Jamais, horrible.
Et parce que je sais aussi que beaucoup de gens aiment les thrillers, notamment autour des pervers narcissiques. Je sais que ça fait beaucoup parler
ces
dernières années.
Ça vous fait rire les pervers narcissiques, vous ?
Non. Je ne vous pas. Parce que je vous parle d'un mix de tout ça avec Bad Sisters, c'est justement une tragi-comédie britannique. Donc on mélange tout ça. Et ça fonctionne très très bien. Alors peut-être que vous avez vu Big Little Lies, Dimitri. Je suis sûre que...
Ah oui, je me rappelle, il y avait un sacré casting. Oui.
Absolument. Nicole Kidman, Meryl Streep. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs ont aimé cette série. Peut-être ont-ils aimé aussi Desperate Housewives. Et bien là, avec Bad Sisters, on reste vraiment dans le même moule avec tous les ingrédients qui font une bonne série de ce genre, à savoir une bande de femmes qui protègent et partagent un terrible secret. Là, on a affaire très exactement à 5 sœurs très soudées. L'une d'elles s'appelle Grace. Elle est mariée à John Paul. C'est un homme particulièrement abject. Je vous laisse juger par vous-même. Dans cet extrait, il s'adresse à sa femme.
Faudrait que tu fasses mes chaussures, d'accord ? Porte-les quand t'es dans le jardin. Et quand tu iras en ville, passe par le salon de coiffure. Tu devrais t'offrir un petit rafraîchissement.
Tu crois que j'ai besoin d'un rafraîchissement ?
Je n'ai pas dit que tu en avais besoin. J'ai dit que tu devrais t'en offrir un. S'il te plaît. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Il est sympa, hein, ce John Paul.
Et il est malaisant, comme dirait mon fils.
Hein. C'est ça. Alors là, on comprend un peu mieux pourquoi ses belles-sœurs le surnomment The Prick, qu'on pourrait traduire très poliment en français par le gland. On comprend aussi pourquoi ces femmes ont une furieuse envie de faire taire cet homme qui gâche la vie de toute la famille.
Il a la goutte et un ulcère. Avec de la chance, il pourrait crever d'ici 10 ans.
Et si ça arrivait avant ? Des gens se font tuer tous les jours.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
On pourrait donner un coup de main à Dame Nature. Tous nos problèmes seraient réglés.
Et voilà que se met en place notre intrigue. Vont-elles le donner, ce coup de main à Dame Nature ?
En tout cas, ce qu'on sait très vite, c'est que John Paul est bel et bien mort, puisque le premier épisode s'ouvre avec la scène de son enterrement. En fait, le récit se construit autour de plusieurs temporalités. Dans le présent, on suit des assureurs qui ouvrent une enquête sur cette mort soudaine, et l'étau semble se resserrer autour des sœurs interrogées. Et dans le passé, 6 mois plus tôt, on nous montre les différents plans, souvent très maladroits, hein, que vont élaborer les héroïnes pour se débarrasser de ce macho pervers. Je ne vous en dis pas plus. Les personnages sont fins et attachants, sauf John Paul, vous l'avez entendu. L'humour noir est décapant, c'est impertinent. Et le suspense aussi est au rendez-vous. Vous serez surpris jusqu'au dernier épisode, jusqu'à la dernière minute même. La série joue donc avec plusieurs genres, mais ne se perd jamais. C'est jubilatoire du début à la fin.
Voilà, et c'est à voir sur quelle plateforme Bad Sisters, donc.
Oui, c'est sur Apple TV+. C'est 10 épisodes d'environ 50 minutes.
Merci beaucoup, Héloïse Goy. Donc, merci. Desperate Housewives à la sauce deep vinaigre un peu. Hein,
c'est ça. Voilà. C'est bien résumé.
Bon, merci à tous les deux, Héloïse, Nicolas et mon cher Vincent. À demain. Merci d'être resté avec nous. 7h52.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Quelques semaines après la fin du procès des attentats du 13 novembre, c'est dans la même salle aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et 318 blessés. Au Canada, au moins 10 personnes tuées, une quinzaine blessées après des attaques au couteau dans deux localités isolées. Les suspects qui ont pris la fuite en voiture sont toujours recherchés. Et puis le Royaume-Uni aura-t-il pour la troisième fois de son histoire une femme première ministre ? Très probable, hein, 2 mois après la démission de Boris Johnson, sauf surprise, c'est Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, qui devrait lui succéder.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
Il est 7h53, l'édito politique. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Du Figaro, alors ça y est, c'est parti, la bataille pour la présidence des Républicains est lancée. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se disputent déjà les adhérents, tandis qu'Aurélien Pradier, lui, rêve de jouer le troisième homme.
Hein. Et oui Dimitri, c'est comme si à force de perdre les élections nationales, la droite avait choisi de se spécialiser dans les élections internes. Souvenez-vous, en 2012, la bataille Copé-Fillon, l'inégalable, ma préférée. En 2017, la primaire, l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. La même année, celle de Christian Jacob en 2019. Et enfin, la primaire de 2021. Donc, une nouvelle bataille se profile. L'élection aura lieu début décembre. Et c'est le moment de faire un rappel pénible pour l'électeur de droite, mais absolument indispensable. Ce rappel, c'est le suivant. LR aux élections présidentielles a réuni 4,7% des voix. 4,7% des voix, c'est 6 fois moins que Macron, c'est 5 fois moins que Le Pen, c'est une fois et demie moins que Zemmour, et c'est le même score que Nicolas Dupont-Aignan en 2017. Autant dire que les 62 députés élus aux législatives sont une illusion d'optique. LR est un parti déclinant, rétréci, moribond. Le paradoxe est que ce parti s'atrophie quand le domaine de la droite s'étend chaque jour un peu plus. Il va aujourd'hui de Bruno Le Maire à Marine Le Pen. On l'a compris, les prédateurs attendent de se jeter sur la proie. Pour LR, une nouvelle guerre civile serait mortelle.
Alors voilà pour le contexte. Les deux candidats favoris maintenant, Éric Ciotti, Bruno Retailleau. Est-ce qu'ils sont si différents l'un de l'autre, Vincent ?
À vrai dire, non. Le style plus que les idées différencie les deux hommes. On pourrait même dire la géographie. Ciotti, ce serait le vent décoiffant du sud-est et Retailleau, la force tranquille de l'océan. Mais l'un et l'autre, en vérité, assument une doctrine franchement libérale et conservatrice. La seule qui puisse sauver la droite. Rappelons aussi que ni Ciotti ni Retailleau n'affichent d'ambition élyséenne et que tous deux pourraient soutenir la candidature présidentielle de Laurent Wauquiez. Mais on ne sait toujours pas avec quelle stratégie.
Alors est-ce que finalement la droite française ne devrait pas regarder quelques modèles à l'étranger pour s'en inspirer ?
C'est toujours enrichissant de regarder au-delà de nos frontières, mais pour la droite c'est indispensable. Au fond, deux modèles se présentent à elle. Le premier, c'est le modèle italien. Le choix de l'alliance des droites. Ce choix, LR peut le faire avec Macron ou avec Le Pen, mais dans les deux cas, elle apparaîtra comme une force d'appoint. En vérité, LR est trop faible pour s'allier avec le président comme avec le RN. Le rapport de force lui est trop défavorable. Le parti serait inévitablement englouti.
Donc le modèle italien, à vous entendre, n'est pas vraiment le bon, Vincent.
Non. Le modèle, en revanche, qui selon la terminologie managériale en vogue, est inspirant, c'est celui de la Grande-Bretagne.
Tiens.
Voilà, on en parlait tout à l'heure. Les conservateurs, en effet, sont parvenus à réussir et la City et les campagnes oubliées, à convaincre les électeurs partis en masse vers le UKIP, l'équivalent du RN outre-Manche, sans perdre l'établissement londonien. La chute de Boris Johnson, fruit de ses excentricités, n'invalide en rien cette stratégie électorale. C'est au fond ce que Nicolas Sarkozy avait magistralement réussi en 2007. Mais attention, si cette stratégie n'oblige à aucun accord d'appareil, elle impose de changer de ton. C'est-à-dire de se débarrasser de toute incantation morale vis-à-vis du RN ou de Reconquête. LR, pour désarmer la défiance, voire la rancune des catégories populaires, doit faire entendre un discours affranchi de toutes les paresses du politiquement correct et pourquoi pas s'offrir même un ou deux recrutements transgressifs sur sa droite. Alors on récapitule, pour espérer renaître, la droite doit allier modestie, clarté, unité et audace. Tout ça, rien que ça. Comme dit le vieux proverbe Dimitri, avec des si, on mettrait LR au pouvoir.
Modestie, clarté, unité, audace. C'est un programme de vie que vous nous offrez, mon cher Vincent. Merci à vous. Vincent Trémollet de Villers, du Figaro, qui met à la une ce matin justement. Les Républicains, la bataille pour la présidence est lancée. Tiens, il y a une idée qui nous vient du maire LR d'Écully, Sébastien Michel, que vous mentionnez, je la donne. C'est la semaine de 36 heures en 4 jours.
Voilà, c'est une idée profondément discutable. On en reparlera peut-être.
Ah oui. Travaillez moins. Enfin, travaillez plus densément, si l'on peut dire. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Vincent. 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, à suivre sur Europe 1. L'invité d'Europe Matin, c'est une parole rare, celle du directeur général de la police nationale. Frédéric Vaux est l'invité d'Europe Matin à 8h13. Dans un instant, la météo et le journal. Nous sommes le lundi 5 septembre et bon courage à tous les enfants qui font leur vraie rentrée aujourd'hui. Allez.
L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, un camion a foncé sur la foule avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer.
Voilà, l'émotion de François Hollande, c'était dans la nuit du 14 juillet 2016. 86 morts, 318 blessés. 6 ans plus tard, début du procès de l'attentat de Nice, aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, sans terroristes ni complices. Dans ce journal, l'enquête et la question des responsabilités avec Frédéric Michel qui va suivre le procès pour Europe 1. Quel avenir, quel rôle aussi pour la police judiciaire? La réforme prévue pour l'an prochain inquiète les enquêteurs. Reportage dans ce journal. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, est l'invité d'Europe 1 dans 10 minutes. Et puis qui pour remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street? Deux prétendants, mais une favorite, elle s'appelle Liz Truss, la nouvelle dame de fer.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des cris, des pleurs et des vies envolées. 4 minutes et 17 secondes d'enfer, 6 ans après l'attentat de Nice. Les victimes et leurs proches vont devoir se replonger dans l'horreur. Le procès de cette attaque revendiquée par l'État islamique s'ouvre cet après-midi, 13h, devant la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice. C'est vous qui allez suivre ce procès à Paris pour Europe 1. Le 14 juillet 2016, un camion fou lancé sur la promenade des Anglais fait 86 morts, 318 blessés et 3000 personnes psychologiquement impactées. Des victimes qui attendent beaucoup de ce procès hors norme. Mais dans le box des accusés, Frédéric, pas de terroriste. Il a été tué le soir même par la police. Pas non plus de complice d'ailleurs.
Effectivement, les 6 hommes et une femme qui seront dans le box des accusés ne sont pas poursuivis pour complicité. Un 8e accusé sera lui jugé par contumace. Il est en fuite. Un autre s'est suicidé en prison. 3 de ces accusés, des proches de Mohamed Laouesh Boulel, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour la justice, ils étaient conscients de la radicalisation de leur ami et de sa fascination pour l'extrême violence. Quelques mois plus tôt, l'un d'eux, Chokri Chafrou, lui écrit même dans un texto « Charge le camion de 2000 tonnes de fer et coupe-lui les freins. Moi, je regarde. » Les 5 autres accusés sont poursuivis pour avoir facilité la fourniture d'armes aux terroristes, notamment le pistolet automatique retrouvé dans le camion et avec lequel Laouesh Boulel, dans sa course folle, va tirer à plusieurs reprises. Son profil psychologique, celui d'un homme violent, obsédé sexuel, consommateur de stupéfiants, sera sans aucun doute utilisé par la défense pour minimiser le rôle de leur client et appuyer la thèse de l'acte du loup solitaire. Les avocats s'étonnent notamment des indices semés par le terroriste. Les photos, les contacts des accusés ont été retrouvés dans son portable. Des noms aussi griffonnés sur des feuilles de papier bien visibles dans son appartement. Les parties civiles, avec leurs avocats, ont une autre lecture du dossier et entendent bien prouver la culpabilité des accusés.
Et il y a une autre question dans cette affaire, Frédéric, une question capitale, c'est celle de la sécurité de la promenade des Anglais ce soir-là. Les victimes veulent savoir pourquoi, comment ce camion a pu y entrer si facilement.
Alors c'est l'une des grandes questions de ce dossier, même s'il faut tout de suite préciser, ce n'est pas l'objet de ce procès. Une autre instruction est en cours à Nice sur cette question précise de l'organisation. Certains espèrent en procès qui pourrait ne jamais avoir lieu, car la loi stipule qu'il faut avoir volontairement été négligent, en connaissance de cause, bref, en sachant qu'un acte très grave, là en l'occurrence un attentat, allait se commettre. Vous le comprenez, la fenêtre est étroite pour déterminer des responsabilités. Des familles ont déposé plainte, mais aucune mise en examen n'a été prononcée. Le préfet de l'époque, son chef de cabinet, l'ancien et l'actuel maire de Nice, sont tous placés sous le statut de témoins assistés. Ils ont accès à la procédure et pour le moment, aucune charge ne pèse contre eux. C'est un dossier sensible, polémique. Christian Estrosi, on s'en souvient, avait dénoncé le soir même le manque d'effectifs policiers, évoquant ensuite des pressions sur des agents, la saisie des images du drame. Il y a aussi eu ces sifflets accompagnant sur la promenade des Anglais le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Je vous le disais, dossier sensible, polémique.
Merci Frédéric Michel qui suit ce procès pour Europe 1.
Et au Canada, tiens, justement, au jour de cette nuit, la police est sur le pied de guerre après une série d'attaques au couteau.
Oui, 10 personnes ont été tuées, 15 blessées dans 2 villes isolées de l'ouest canadien, dont une communauté indigène. 2 suspects, Damien et Miles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, sont activement recherchés.
Et il est 8h05 sur Europe 1. On continue à parler de sécurité. Quel avenir pour la police judiciaire? La réforme prévue l'an prochain par Gérald Darmanin prévoit de fusionner les services de la PJ avec ceux de la sécurité publique.
Une réorganisation qui est déjà mise en place depuis plusieurs mois dans des territoires tests, dont la Martinique. Là-bas, les enquêteurs judiciaires sont logés à la même enseigne que ceux qui luttent contre le trafic de drogue ou ceux qui contrôlent les frontières, tous réunis au sein d'une même entité, la DTPN, la Direction Territoriale de la Police Nationale. Une réforme qui ne fait pas l'unanimité. Reportage de notre correspondant Florin Aussu.
Pour la procureure de Fort-de-France, Clarisse Taron, il s'agit clairement d'une perte d'efficacité dans certaines enquêtes.
Un meurtre est commis un vendredi après-midi à Fort-de-France. La personne qui est la plus gradée sur place peut être quelqu'un anciennement police aux frontières. Nous avons eu le cas à deux reprises. Le fonctionnaire de police qui est censé diriger le dispositif est quelqu'un qui n'a aucune expérience du judiciaire.
Sentiment plus mitigé du côté des syndicats de police, Louis Iberté, représentant Alliance Police Nationale.
On peut mutualiser les forces, on peut mutualiser le matériel. Ça, c'est l'avancée. Mais par contre, le DTN a un pouvoir qui peut lui permettre de prendre un effectif à droite et à gauche pour boucher un trou à droite et à gauche aussi.
Un interlocuteur unique au sein de la police, c'est pourtant une excellente avancée pour Steve Moreau, élu en charge de la sécurité à la ville de Fort-de-France.
Nous avons les réponses sur tous les sujets, que ce soit sur le STUB, que ce soit sur des questions opérationnelles, que ce soit sur des fermetures administratives, y compris sur des établissements. Donc nous gagnons du temps et nous levons bien entendu tous les points de blocage dans ces réunions-là.
Outre la Martinique, ce dispositif est aussi testé en Guadeloupe, en Savoie et dans les Pyrénées-Orientales.
Florin Aussu, notez que Gérald Darmanin, qui a reçu les responsables de la police nationale la semaine dernière, s'est dit prêt à évoquer des amendements sur ce projet.
Alors on vient de poser les termes du débat. Il se trouve que le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, sera dans le studio d'Europe 1 dans quelques minutes pour répondre aux accusations qui lui sont adressées. Il est 8h07. Vous écoutez Europe 1 et peut-être attendez-vous en ce moment même le métro ou le bus. Une attente qui se fait de plus en plus longue car les transports en commun manquent de bras.
Et oui, notamment en Île-de-France. Jeudi dernier, tenez, 20 à 25% du trafic de bus de la RATP n'a pas pu être assuré. Ça fait plus de 1000 services perturbés. Margot Faudéré, le problème, c'est que la RATP manque de machinistes après une vague de démissions sans précédent.
Comme sur la route, pour un cheminot, l'horreur c'est l'encombrement et les arrêts intempestifs. Radouane a fait plus de 10 ans de circulation surchargée sur le RERB à Paris, une expérience épuisante.
En heure de pointe, on a des bouchons, ça circule très très lentement. On doit être beaucoup plus vigilant, donc beaucoup plus fatigant. Contrairement en province, on n'a pas de contrôleur. Toute la responsabilité est donnée sur le conducteur.
À force d'acharnement, Radouane a réussi à obtenir sa mutation à Lille en 12 ans seulement, c'est parfois beaucoup plus. Un effort qui en valait la peine pour de meilleures conditions de travail.
Comme les circulations sont plus fluides, on ne s'arrête pas toutes les 30 secondes, une minute, c'est des plus longs trajets. Pour le cerveau, bizarrement, c'est moins fatigant.
S'il a pu exercer son métier hors de la région parisienne, d'autres ont renoncé à cette profession. Après 13 ans de service sur les lignes du RER à la gare du Nord, Frédéric a vu sa demande de mutation refusée. Il a demandé une rupture conventionnelle, lassé du manque de reconnaissance.
Quand vous rendez service, on ne vous dit jamais merci. Quand vous avez besoin de quelque chose, on ne vous aide jamais. Et au bout d'un moment, quand vous avez moins envie d'aller au travail que d'y aller, il faut faire des choix.
Le tout pour une rémunération beaucoup trop faible, selon lui.
Les journées de travail toujours plus importantes par rapport à un salaire moins attrayant. Moi, je tournais entre 2003 et 2008 à peu près. Enfin, net.
Aujourd'hui, Frédéric a changé de vie à Tarbes et comme le RER, les lignes de bus sont en souffrance. Il manquerait 1800 conducteurs en Île-de-France.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
Au Royaume-Uni, maintenant, les jeux sont faits, mais les résultats ne seront connus qu'à la mi-journée. Qui pour remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street ?
Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, ou Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Les militants conservateurs britanniques ont déjà choisi. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni en direct de Londres, Liz Truss se présente comme l'héritière de Margaret Thatcher. Elle est largement favorite dans cette élection. Mais si elle l'emporte, sa nomination au poste de première ministre va prendre encore quelques heures, hein, Anaïs.
Oui, absolument. Il y a d'abord la grande annonce qui aura lieu dans le centre de Londres devant tout le parti conservateur réuni à 13h30. Sauf grosse surprise, vous l'avez dit, c'est Liz Truss qui devrait l'emporter. Pour les militants, c'est l'héritière de Boris Johnson et ils apprécient sa loyauté envers lui. Elle incarne aussi un retour aux valeurs conservatrices traditionnelles sur le plan économique avec sa promesse de baisser les impôts. Après l'annonce, Boris Johnson, lui, restera encore Premier ministre pendant 24 heures. C'est seulement demain qu'il quittera Downing Street définitivement. Il se rendra au château de Balmoral en Écosse où se trouve la reine pour lui remettre sa démission. La souveraine nommera ensuite son successeur, puis le ou la nouvelle chef du gouvernement entrera finalement à Downing Street demain en fin d'après-midi.
Merci beaucoup Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. Un mot de tennis pour terminer. Caroline Garcia accède pour la première fois de sa carrière au quart de finale de l'US Open. Elle affrontera demain Coco Gauff. Chez les hommes, Daniil Medvedev, tenant du titre, s'est fait sortir en 8e par Nick Kyrgios.
Merci beaucoup. Mais oui, non, c'est Kyrgios.
Kyrgios. On va y arriver.
C'est dément les noms. Hein.
C'est pas gagné.
Fanny Marceau.
Oui, ça c'est facile à dire.
C'est facile à se rappeler. Merci beaucoup. Je vous ai rappelé quand je vous avais appelé Sophie.
Sophie, oui.
Voilà, bon, non, c'est Fanny.
C'est pas grave, il y a pire comme comparaison. Hein. On salue Sophie Marceau. On espère qu'elle nous écoute.
Merci Fanny. Dans un instant, Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, est l'invité d'Europe Matin. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Frédéric Vaux.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de la police nationale. C'est l'échelon le plus élevé du commandement de la police. Faut-il le préciser ? Votre parole est rare. Et si vous êtes avec nous ce matin, Frédéric Vaux, c'est que ça chauffe en ce moment dans la maison police. Une réforme d'organisation, on en parlait dans le journal précédemment. Une réforme donc suscite une forte opposition de la base, en particulier dans la police judiciaire. Des enquêteurs viennent même de créer une association hors des mouvements syndicaux. Le mouvement reçoit même le soutien de l'association des magistrats instructeurs. Pour que l'on comprenne bien, Frédéric Vaux, qu'est-ce que cette réforme qu'il vous revient de mettre en œuvre, cette réforme territoriale ?
D'abord, cette réforme ne concerne pas simplement la police judiciaire, c'est une réforme de l'organisation et du fonctionnement de la police nationale qui est fondée sur des constats qui sont très largement partagés depuis des années et qui ont été renforcés par le diagnostic qui a été posé par le livre blanc de la sécurité intérieure dont le contenu nous a été révélé au cours de l'année 2020. Mmh. Et livre blanc auquel ont été associés de nombreuses parties intéressées par les questions de sécurité.
Mais pour résumer, en fait, il y a quatre grands services de police, les renseignements, la sécurité publique, la police judiciaire, la police aux frontières. Dans les départements, chaque service rendait compte à sa hiérarchie. L'idée étant d'unifier, de créer un poste de patron unique de tous ces services de police qui lui-même rendrait des comptes au préfet de département. Voilà en substance l'organisation qu'il s'agit de mettre en place, pour faire simple, Frédéric Vaux.
Le principal diagnostic qui avait été posé, des difficultés qu'on pouvait constater dans le fonctionnement de la police nationale, c'est que notre organisation est très cloisonnée. Et ça depuis de nombreuses années. Donc le choix a été fait d'organiser la police nationale autour de ses grandes missions. La police judiciaire, la sécurité et la paix publique, le renseignement et le contrôle aux frontières et la lutte contre l'immigration irrégulière. Et nous avons souhaité aussi, avec cette réforme, rapprocher la décision des lieux où se trouvent les problématiques de sécurité. L'organisation administrative française fait que c'est le département et c'est la zone de défense. Donc, cette organisation, telle qu'elle va se mettre en place au niveau national, autour du directeur général de la police nationale, aura vocation à se décliner de la même façon à l'échelle des territoires.
Oui. Alors, si je vous comprends bien, vous nous dites l'enjeu de cette réforme, de créer un interlocuteur unique, finalement, c'est plus de souplesse, plus d'agilité. Je précise que vous avez d'ailleurs vous-même fait votre carrière dans la police judiciaire. Mais ce à quoi les officiers de police judiciaire qui se mobilisent contre la réforme me disent, mais non, en fait, c'est la fin de la police de Clémenceau. Ça, c'est la formule choc trouvée notamment par le cinéaste Olivier Marchal, qui soutient les opposants à la réforme. Et puis, il y a tous ceux qui vous disent, dans cette formule aussi extrêmement choquante, la PJ, c'est le dernier rempart contre la mafia, et c'est ça qu'on est en train d'abattre à travers cette réforme. Que répondez-vous, Frédéric Vaux ?
Alors, je le dis très fermement et très solennellement, et aussi, vous l'avez rappelé, avec mon parcours professionnel personnel, il est hors de question de mettre un terme aux missions de la police judiciaire telles qu'elle les exerce aujourd'hui. Mmh. Notre ambition, notre objectif, c'est même de les renforcer. Il se trouve que de nombreux services sont aujourd'hui impliqués dans les investigations, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons souhaité réunifier, assurer un pilotage de l'ensemble de cette filière, regroupée pour que nous soyons beaucoup plus efficaces, réunis, coordonnés que dispersés.
Mais alors, on avait cet exemple qui était donné dans notre reportage réalisé par Florent aussi en Martinique où un policier de la police aux frontières pourrait se retrouver à diriger une enquête pour meurtre alors que ce n'est pas du tout son domaine. Est-ce que la réforme peut conduire à ce genre de situation un peu étonnante quand même, Frédéric Vaux ?
Je ne connais pas cet exemple. Il peut y avoir ici ou là des difficultés que nous traiterons, des réformes de cette ampleur. Évidemment, ça peut causer parfois certaines difficultés. Mais enfin, en police aux frontières aussi, on a des spécialistes de l'investigation, de la police judiciaire. On a un office central qui lutte de manière très efficace contre les réseaux de passeurs de migrants clandestins. Et donc, on peut aussi avoir à la police aux frontières des policiers qui ont une expérience de police judiciaire, que ce soit à la PAF ou ailleurs. Et donc, l'objectif, c'est bien de les rassembler et de faire en sorte que nous ayons davantage de moyens et des moyens mieux coordonnés et mieux répartis.
Ah, parce que vous dites, justement, cette réforme se justifie parce qu'on voit le taux d'élucidation de certaines infractions baisser de manière un peu inquiétante. Alors, justement, quels sont ces taux d'élucidation qui baissent? Et puis, comment remonter la pente? Est-ce qu'un changement d'organisation, finalement, peut permettre une remontée?
Oui, enfin, c'est bien l'objectif. Notre objectif principal, ça n'est pas de toucher à ce qui fonctionne bien, mais de permettre d'améliorer là où nous connaissons des difficultés. Parmi une des explications qui peuvent conduire à cette évolution négative des taux d'élucidation, on a identifié le faible taux d'encadrement que certains services généralistes d'investigation subissent finalement. Et donc l'idée, c'est de renforcer l'encadrement et le pilotage et la coordination de toutes nos enquêtes. Mmh. À tous les niveaux de l'investigation, que ce soit l'investigation sur des thématiques très spécialisées, la criminalité organisée ou la délinquance spécialisée, ou que ce soit sur des infractions de manière plus générale. Nous considérons que la petite et moyenne délinquance a le droit d'avoir les mêmes moyens, la même attention qui lui est consacrée que les phénomènes de criminalité organisée et de délinquance spécialisée.
Oui, mais quand vous entendez les officiers de police judiciaire dans ce mouvement, parce que vous vous en doutez, ils sont nombreux à vous écouter ce matin sur Europe 1, ils vont se dire, très bien, mais quand on combat la grande criminalité, c'est peut-être des centaines de petits délits qu'on va empêcher à l'avenir. Et donc, est-ce que véritablement, il n'y a pas un risque de dilution des prérogatives de la police judiciaire à travers cette réforme, où elle se retrouve finalement mise au même niveau que les grands services, les autres services de police?
Déjà, je me suis engagé par écrit à ce que celles et ceux qui occupent des fonctions actuellement dans ce domaine de la lutte contre la criminalité organisée les conservent. Mmh. Et moi qui ai passé 30 ans à combattre la criminalité organisée, le banditisme à Nice, les stupéfiants à Marseille, j'étais en poste en Corse, j'ai été engagé dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas moi qui vais contester l'idée qu'il faut renforcer nos moyens dans la lutte contre la criminalité organisée. Donc l'objectif, c'est bien de renforcer notre organisation, nos moyens dans la lutte contre la criminalité organisée, mais aussi de faire en sorte que la petite et moyenne délinquance puisse bénéficier de la même attention.
Frédéric Vaux, si cette réforme était d'ores et déjà en place en métropole, est-ce que la police aurait vu l'imam Iqiyoussen s'enfuir?
Alors,
pardonnez-moi pour cette transition, mais elle s'impose malgré tout parce que la question est dans l'actualité.
D'abord, ce sont les services du renseignement territorial qui avaient la charge de surveiller cette personne. Je dois préciser que la police, sur le terrain, ça ne se passe pas comme au cinéma. Je connais l'engagement et le professionnalisme des fonctionnaires du renseignement territorial. Ils ont fait le maximum pour assurer la surveillance des lieux que fréquentait cet imam.
Oui. Et maximum, mais
l'imam lui-même.
Il n'y a pas eu de raté dans sa surveillance.
Ça n'est pas une science exacte. Quand on surveille, le principe, c'est de voir sans être vu. Ce n'est pas d'arrêter les gens quand ils se déplacent. Donc, on n'a pas une garantie à 100%, d'autant plus que cette personne avait sans doute la volonté de se soustraire, bien sûr, au service de police et a tout mis en œuvre pour faire en sorte que la police ne soit pas en capacité de le détecter quand il a choisi de prendre la fuite. Et pour celles et ceux qui connaissent l'environnement géographique des lieux dans lesquels il résidait, c'était aussi un secteur extrêmement difficile à surveiller.
Donc, vous réfutez les reproches qui peuvent être fait d'un raté dans sa surveillance, parce qu'on apprend que son téléphone effectivement bornait depuis son domicile, mais sans qu'on l'ait vu lui. Et finalement, les vérifications de base ont-elles été faites?
Évidemment qu'elles ont été faites, et avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement. Ce sont des surveillances 24 heures sur 24 dans un contexte extrêmement difficile, avec quelqu'un qui cherchait à se soustraire à la police et qui avait pris toutes ses dispositions pour échapper à la police en fonction de la décision qui serait rendue par le Conseil d'État. Donc c'est un procès indigne qui est fait à la police nationale.
Frédéric Vaux, je rappelle que vous êtes le directeur général de la police nationale. Vous avez vu les journaux, tout à l'heure s'ouvre à Paris devant la cour d'assises spéciale le procès de l'attentat terroriste de la promenade des Anglais à Nice. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, tous deux ont parlé de signaux inquiétants qu'il fallait à nouveau redouter la possibilité d'un attentat piloté depuis l'étranger contre la France, le retour de la menace extérieure. Cette menace, d'où vient-elle aujourd'hui, Frédéric Vaux ?
Notre vigilance, elle est permanente. Elle peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. On l'a vu au travers des drames qui se sont produits dans notre pays. Mais puisque vous évoquez l'attentat de Nice et que le procès démarre aujourd'hui, justement, je veux rendre hommage au travail qui a été fait par la police judiciaire. Je mesure le poids que ça représente pour ces centaines d'enquêteurs qui se sont mobilisés sur une scène de crime qui était épouvantable.
2 kilomètres de long pratiquement.
Épouvantable, avec des journées, des semaines, des mois de travail. Et j'ai une pensée aussi pour les enquêteurs qui vont aller témoigner devant la cour d'assises spécialement composée à Paris aujourd'hui et pour lesquels ce travail représente une charge émotionnelle importante.
Mais malgré tout, j'insiste sur la question, puisqu'on a beaucoup parlé ces dernières années du djihadisme d'atmosphère, dont ce Mohamed Laouesh Boulel pourrait être une incarnation, c'est-à-dire une radicalisation, une autoradicalisation sur le sol français. Quand même, cette inflexion dans le discours du ministre de l'Intérieur, le retour de la menace extérieure, ça n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police doit avoir une oreille, les yeux braqués sur des territoires comme la Syrie, comme la Libye. Ce sont à nouveau des zones de danger direct pour la France.
Mais l'attention et la mobilisation des services de renseignement intérieur ou extérieur est totale. Et c'est parce qu'ils sont mobilisés qu'ils ont pu déjouer un nombre d'attentats importants. Et je peux vous dire, pour ce qui relève du périmètre de la police nationale, nous sommes d'une extrême vigilance, que ce soit au travers de l'action du renseignement territorial, que de tous les petits faits qui puissent apparaître ici ou là et qui peuvent attirer notre attention.
Autre question pour vous, Frédéric Vaux. Alors, ce sujet ne vous concerne pas uniquement, bien sûr, mais Paris 2024. Défi sécuritaire, évidemment, surtout après les événements du Stade de France au mois de juin, qui montraient que des failles étaient possibles dans le dispositif policier. Il y a de fortes inquiétudes autour de la sécurité privée, à savoir qu'il faut, en l'espace de 24 mois, la trouver 20 à 30 000 agents. Il faut les former, c'est très compliqué. On se souvient qu'il y a 10 ans, Londres avait rencontré exactement les mêmes problèmes. Est-ce qu'on sera prêt ? Est-ce que la police saura relever le défi si l'on n'a pas ces agents privés ?
La police nationale, dans tous les cas, sera en capacité de relever le défi de Paris 2024, je peux vous le garantir. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé de nous mobiliser. Le travail est engagé, que ce soit au travers des policiers actifs ou des policiers réservistes. Nous recrutons aussi un nombre important de réservistes. Sur ce qui est de l'organisation générale du dispositif de sécurité, ça ne relève pas de ma compétence ou de
ma responsabilité. Mais vous anticipez la possibilité que les nombres des agents privés qui vont assurer une partie de la sécurité ne soit pas au rendez-vous et que ce soit donc la police nationale, voire l'armée, qui doivent accomplir ces missions de sécurité ?
Ça ne relève pas de ma responsabilité, mais nous envisageons toutes les possibilités. Nous envisageons aussi que d'autres crises viennent se surajouter au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc nous faisons en sorte de nous organiser pour faire face et pour répondre à toutes les situations qui pourraient se présenter.
Dernière question, Frédéric Vaux. Va être présenté mercredi en Conseil des ministres la LOPMI, c'est le projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est un texte important pour vous, puisque à la clé, 15 milliards d'euros en plus dans le budget des forces de l'ordre en 5 ans. Il est question de faciliter les recrutements, d'augmenter les budgets. Quelles sont les priorités pour vous à travers ce texte, Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale? Si vous aviez des demandes particulières à adresser au ministre pour ce texte, quelles seraient-elles? Quelles seraient-ils?
Je les réserve au ministre de l'Intérieur et surtout des annonces qui seront faites mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Mais on voit bien que les enjeux sont très importants. En termes de recrutement, en termes de professionnalisation et aussi...
On voit que la gendarmerie va être particulièrement soignée. 200 nouvelles brigades de gendarmerie.
Je pense que le ministre de l'Intérieur, j'en suis même convaincu, a une attention particulière pour que tout le monde bénéficie des effets très positifs de cette LOPMI, que les policiers attendent évidemment avec impatience.
Ouais, c'est un texte important pour la police nationale ?
C'est effectivement un texte important parce qu'il nous projette dans le temps, dans la durée, sur 5 ans, ce qui est... nouveau pour la police nationale et pour le ministère de l'Intérieur.
Merci Frédéric Vaux d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la police nationale. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous. Dans quelques minutes sur Europe 1, ce sera l'heure de nos signatures. Philippe Val nous parlera des Ouïghours. Juste après, ce sera Emmanuel Ducrot qui, pour sa part, nous parlera de Thomas Pesquet. Et puis à 8h40, notre club de la presse avec ce matin Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs. A tout de suite.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h30 pile sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Christophe Lamarre.
86 morts, 318 blessés, des milliers de rescapés encore sous le choc 6 ans après l'attaque terroriste du 14 juillet 2016 à Nice sur la promenade des Anglais. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. 8 personnes seront jugées, un absent, le terroriste abattu au volant de son camion. La traque se poursuit au Canada pour retrouver les auteurs d'une attaque au couteau qui a fait au moins 10 morts et 15 blessés. Les victimes appartiennent à la communauté indigène de 2 villages situés dans l'ouest du pays. Les 2 suspects sont âgés d'une 30aine d'années. La police estime qu'il est trop tôt pour expliquer leur motivation. Le Royaume-Uni connaîtra aujourd'hui le nom du successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre. Le résultat du vote des 200 000 membres du Parti conservateur sera dévoilé dans la journée. Liz Truss fait figure de grande favorite. Le gouvernement demande à la SNCF de faire des économies d'énergie, mais pas de supprimer des trains. Précision ce matin du ministère des Transports. La compagnie doit établir un plan d'urgence et plusieurs scénarios en cas de pénurie d'électricité. À elle seule, la SNCF consomme 10% de l'électricité industrielle en France. La crise énergétique et l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 affaiblissent l'euro par rapport au dollar. Pour la première fois depuis le début de l'année, la monnaie unique passe sous le seuil des 0,99 pour 1 euro. Les stations totales prises d'assaut par les automobilistes au point que certaines sont en rupture de stock. Depuis le 1er septembre, le pétrolier propose une remise de 20 centimes qui s'ajoute aux 30 centimes de ristourne de l'État. Des files ininterrompues de voitures se forment devant les pompes pour profiter de l'aubaine. À Valenciennes ou encore à Calais, les stations du groupe ont été vidées en un week-end. Surprise à l'US Open de tennis avec l'élimination en 8e de finale du tenant du titre et numéro 1 mondial Daniil Medvedev. Qualification pour les quarts de Caroline Garcia, dernière représentante du tennis français dans le tournoi. La fin de la 6e journée de Ligue 1 de football hier soir. Monaco a battu Nice 1-0. Le PSG toujours leader avec le même nombre de points que Marseille mais une meilleure différence de but. Lens complète le podium. Enfin, les basketteurs français qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro après leur victoire hier soir face à la Hongrie 78-74.
Merci Christophe. Tiens, la rubrique Rouge, vous, on apprend aussi ce matin que Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale, va être proposé comme président non exécutif du conseil d'administration de Sanofi, le fabricant de médicaments, évidemment. Merci Christophe.
7h, 9h,
Europe Matin.
Et c'est l'heure des signatures sur Europe 1, à chaque jour, une différente. Casting 5 étoiles évidemment du lundi au vendredi. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
C'est votre deuxième chronique de la saison et vous nous parlez ce matin des Ouïghours.
Oui, alors la semaine dernière, j'ai dit des choses désobligeantes sur la NUPES.
Vous ?
Oui, non. Et Mélenchon. Bah aujourd'hui, je dois saluer leur courage. Après la publication accablante du rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, sur la persécution des Ouïghours en Chine, la réaction de la NUPES ne s'est pas fait attendre. Courageusement, ils ont déposé une proposition de résolution pour condamner l'institutionnalisation en Chine d'un régime d'apartheid contre le peuple Ouïghour.
Non, vous vous trompez, c'est pas la Chine hein, qui accuse les députés de la NUPES. Ils ont rien dit sur la Chine, c'était sur Israël qu'ils les ont accusés d'apartheid.
Oh,
c'était...
comme je suis distrait.
Bah oui.
Bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, ça aurait été étonnant qu'ils le fassent, puisqu'en janvier dernier, déjà, la France Insoumise avait refusé de voter une condamnation des crimes du régime de Pékin contre les Ouïghours. Aujourd'hui, le rapport de Michel Bachelet ne laisse aucun doute sur la nature de la persécution des Ouïghours et des autres musulmans de la région, notamment des Kazakhs. Les hommes, les femmes, les enfants et en priorité les artistes et les intellectuels sont enfermés dans des camps de travail, torturés et soumis à des sévices sexuels. Le rapport parle de systèmes de détention susceptibles de constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Fin de citation.
Bon, sérieusement Philippe, quelle est la réaction de la NUPES à ce rapport hein, qui révèle la nature de la persécution des musulmans par Pékin ?
Ben, ma connaissance, rien, le silence... Pourtant, à la lecture du rapport, on découvre que chez les Ouïghours, la natalité, qui était de 15,88 pour 1000 en 2017, est tombée à 8,14 pour 1000 en 2019, c'est-à-dire une chute de 50%, suite à une politique de stérilisation forcée des femmes. La seule réaction féministe récente a été la condamnation par Sandrine Rousseau du mâle blanc faisant cuire une côte de bœuf sur un barbecue. Accordons-lui qu'il y avait urgence à dénoncer ce scandale.
Comment interpréter la hâte à condamner Israël pour apartheid cet été, Philippe ? Et le silence après la publication du rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme ?
Eh bien, c'est toute la question. D'abord, une mise au point. L'apartheid est un régime juridique raciste précisément documenté. Or, les citoyens israéliens d'origine palestinienne jouissent des mêmes droits que les autres. Ils ont des députés, ils sont représentés à la Cour suprême et certains occupent de hautes fonctions dans diverses institutions, ce que l'apartheid interdit formellement. Confondre une situation de conflit interminable dont les peuples israéliens et palestiniens se passeraient bien avec un régime d'apartheid insulte à la fois la mémoire de Nelson Mandela et diffame Israël, quelles que soient les critiques que chacun est en droit de formuler contre la politique israélienne. Si la défense des Palestiniens par la gauche insoumise était sincère, elle n'hésiterait pas à condamner également la Chine pour des crimes systématiques, planifiés et situés infiniment plus haut sur l'échelle de la gravité.
Vous suggérez, Philippe, que la passion de cette gauche, c'est pas l'amour des Palestiniens, mais c'est la haine d'Israël.
Et bien pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, en regard de la proposition de résolution du mois de juillet contre Israël, c'est ce que met brutalement en lumière l'absence de réaction de la bande à Mélenchon après la publication du rapport de Michel Bachelet. Le massacre de milliers de musulmans, ouïghours, kazakhs ou kurdes, échappe au radar de la bonne conscience insoumise.
Mais qu'est-ce qu'il manque à leur humanité pour être une juste cause ?
Eh bien, l'ennemi qui convient, Dimitri. Seuls les musulmans en conflit avec Israël sont des victimes dignes d'être défendues. C'est quand même bizarre, non ?
Et ça tient à quoi, d'après vous ?
Ben, ça tient à ce que l'État d'Israël est un État juif et que la gauche radicale est antisémite.
Ouf, ben, donc vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, mon cher Philippe. Merci à vous. 8h37 sur Europe 1, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. On était pas mal hein, dans le registre de l'absurde. Là,
on était pas mal.
Dans le politiquement absurde. Emmanuel, ce matin, restez Philippe, hein, parce que ça va vous plaire. Notre voyage en absurde nous mène très loin de la Terre ce matin dans l'espace. Vous nous racontez comment le spationaute français Thomas Pesquet s'est retrouvé malgré lui ces derniers jours au cœur d'un délire complotiste.
Ah oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a des moments où les personnages les plus brillants et les plus courageux d'une époque doivent se sentir démunis face à la bêtise de leurs contemporains. Et c'est vraiment ce qu'a dû ressentir Thomas Pesquet ces derniers jours. Pesquet, l'ingénieur, le spationaute, qui a dû rappeler à des clampins que oui, on avait bien marché sur la Lune. Alors Thomas Pesquet, c'est pas n'importe qui, hein. Il a consacré sa vie à la recherche spatiale. Il a passé 396 jours en orbite autour de la Terre. Cette histoire est si stratosphérique, Dimitri, qu'il faut la raconter chronologiquement.
Alors, vous nous avez bien fait saliver. Cette histoire, elle commence le 28 août par une interview sur France 2.
Oui, alors Thomas Pesquet est en duplex. Il est là pour parler des missions Artemis qui vont amener des nouveaux humains sur la Lune dans quelques années. Alors, Thomas Pesquet, il est enthousiaste. C'est son boulot et puis c'est sa passion. Il raconte qu'il regarde la Lune le soir et qu'il a un petit frisson. Il se dit comment est-ce qu'il est humainement possible d'aller là-bas. Et puis un peu plus loin dans l'interview, il prononce la phrase qui va déchaîner des complotistes toujours à l'affût d'un nouvel os à ronger. Il dit qu'avec les missions Artemis, je cite, « on va aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre ».
Qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans cette phrase, Emmanuel ?
Rien pour vous qui êtes normalement constitué, comme la plupart de nos auditeurs. Vous comprenez bien cette tournure de phrase qui dit que l'homme va aller plus loin que ce qu'il a fait jusque-là. C'est factuellement vrai. Les missions Artemis vont se placer à 64 000 km en orbite autour de la Lune. Les missions Apollo, les précédentes, elles avaient tourné à quelques centaines de kilomètres. Mais il n'en a pas fallu plus sur les réseaux sociaux pour que quelques gros comptes spécialisés dans les complots... Des gros comptes spécialisés dans les complots. Et ils sont partis en vrille et ils en ont déduit que... Thomas Pesquet avouait qu'on n'avait jamais marché sur la Lune.
Oui.
Je ne vais pas donner leur nom, hein, ce n'est pas la peine de leur faire de la pub. Ce sont les mêmes qui ont sévi pendant le Covid. Ils ne sont pas réputés pour leur finesse. Vous savez, le complotiste, ce n'est pas très exigeant. Ça recycle volontiers les vieilles lunes. Ce bobard est aussi ancien que la conquête spatiale. Plus c'est gros, plus c'est absurde, plus il gobe. Vous savez, vous vous rappelez de cette phrase fantastique d'Albert Einstein ? Deux choses sont infinies, disait-il, l'univers et la bêtise humaine, encore que pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue.
Bon, et Thomas Pesquet dans tout ça ?
Eh bien, il a dû répondre parce que l'intox prenait de l'ampleur, des milliers de messages. Il a dû tweeter qu'il regrettait de perdre un temps précieux à démentir. Il a dit aussi que ça lui faisait de la peine après ce qu'il a fait depuis 10 ans, ses 2 missions, ses milliers d'heures de boulot pour en arriver là. Réponse extrêmement polie et mesurée, si vous voulez mon avis. En 2019, le pionnier de l'espace américain Buzz Aldrin, face à un complotiste du même tonneau, lui avait collé une droite, ce que mon grand-père appelait une étoile à 5 branches.
Une morale à cette histoire.
Vous connaissez l'adage, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ajouterais que le sage excédé a souvent envie de lui montrer le point tout entier.
L'étoile à 5 doigts, donc, si j'ai bien compris. Merci Emmanuel Ducrot, à demain matin. Merci Philippe d'être resté. Allez, à suivre le Club de la Presse, Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles, Carole Barjon, de l'Obs. On va revenir sur l'ouverture aujourd'hui, le premier jour du procès de l'attentat de Nice. C'était en 2016, 8h41.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h43, elle n'occupe plus le devant de la scène médiatique, mais elle n'est pas très loin. L'actualité de ce matin se charge de nous le rappeler. avec l'ouverture ce lundi de l'attentat de Nice en 2016. Elle, c'est la menace terroriste. Les oreilles attentives auront peut-être noté cette inflexion ces dernières heures, coup sur coup ce week-end, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et du procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. Tous les deux nous parlent de signaux inquiétants, qu'il fallait à nouveau redouter la possibilité d'une action pilotée depuis l'étranger contre la France. Alors vous savez, on parle dans le monde de l'entreprise du wording, donc hein, c'est les mots qu'on emploie, hein, les nuages de mots, si je puis dire, les mots-clés. Vous voyez, ça change. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça n'est pas anodin. La menace extérieure, la menace terroriste est de retour. En plus, évidemment, de la menace endogène, de ce fameux djihadisme d'atmosphère dont on a souvent parlé sur Europe 1. Et bien justement, on aborde le sujet ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour.
Grand reporter à l'Obs, bienvenue sur Europe 1. Charlotte
Merci.
Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour,
bonjour
Charlotte.
Bonjour.
Voilà, Emmanuel, Philippe sont restés également avec nous. On ne va pas passer trop vite d'abord sur le procès de Nice, parce qu'il faut bien mesurer, se souvenir de ce qui s'est passé. Malheureusement, on sent qu'une espèce d'indifférence s'installe à mesure que les attentats s'empilent les uns derrière les autres, le temps faisant son œuvre. On l'avait vu pendant l'attentat du 13 novembre. Oui, bon, ça y est, c'est le procès. L'attentat de Nice, c'est une scène de crime. Le chiffre m'a beaucoup impressionné ce matin en le relisant. C'est une scène de crime de 1850 mètres, Charlotte Dornelas.
Oui, et puis c'est 86 morts, ça on le sait, on avait le chiffre, mais c'est aussi 400 blessés dont on ne sait absolument rien quelques années plus tard, parce que c'est moins impressionnant, évidemment, que le nombre de morts, mais c'est des vies qui peuvent être bien fauchées selon les blessures. Et on a évidemment quelque chose d'assez... D'ailleurs, c'était un peu... le même sujet au moment du Bataclan, au tout début, quand l'accusé principal refusait de parler, on se souvient. Bon, là, celui qui était au volant du camion est mort et a été abattu le jour de l'attentat. Donc on a 8 personnes. Moi, ce que je crains, c'est qu'on attend toujours énormément de ces procès sur le terrain. Alors, les victimes attendent énormément pour savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, ce qui s'est passé se passe essentiellement sur le terrain idéologique, et c'est toujours la partie qui a du mal à s'imposer dans ce genre de procès. Et on l'a vu au Bataclan, c'était compliqué. On avait notamment l'avocate de Salah Abdeslam qui passait son temps à nous dire, mais je comprends pas, enfin moi il y a une phrase que je retiendrai toute ma vie, je pense, elle dit, j'ai parfois l'impression que certains imaginent qu'on a plus qu'un accusé dans le box, certains le prennent pour un ennemi. Ben, je te confirme, en fait. Oui, évidemment que c'est un ennemi, évidemment que c'est une guerre, qu'il fait la guerre à la France et qu'il doit être considéré comme tel. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, c'est tout ça que je crains toujours un peu au début de ce procès, qui est par ailleurs évidemment est nécessaire. Et là, en plus, on a 8 personnes qui sont au tribunal, qui sont accusées. Et c'est des accusations plus ou moins liées directement à l'attentat. On a du trafic d'armes, on a des gens qui ont conduit le camion, mais dans quelle mesure est-ce que ils étaient au courant ou pas, c'est toujours très compliqué de le déceler.
Et puis là, on a quand même un terroriste, alors abattu le soir même par les forces de l'ordre. Il y a vraiment un profil très particulier. Hein, son ex-femme a témoigné contre lui en expliquant quel homme il était, très pervers, très sadique. Les gens qui sont dans le box des accusés se disent, mais est-ce qu'il n'a pas laissé mon nom écrit sur un bout de papier dans son appartement pour me nuire, en fait, pour que je l'accompagne finalement dans sa chute, alors que finalement, certes, je lui ai vendu une arme, mais jamais j'ai entendu parler d'un procès, d'un attentat terroriste. Il en a pris d'autres en photo devant le camion, etc., etc. Carole Barjon, ce procès... Charlotte insiste sur la potentielle déception, finalement, pour tous ceux qui attendent justice contre le terrorisme.
Et sur l'idéologie qui préside, au fond... qui est la raison d'agir souvent de ces terroristes. Le problème, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Charlotte, mais ça, c'est du ressort du politique, évidemment. Et là, on est dans un procès, donc c'est du ressort de la justice, dont la mission est de rechercher les coupables, d'établir des faits, et voilà. Donc on est le procès de l'idéologie, elle ne peut pas avoir lieu là. Ce qu'on sait, c'est que malheureusement, et effectivement, il y a quand même eu 86 morts, il y a presque 900 personnes qui sont portées partie civile, donc c'est absolument énorme. Toutes ces personnes attendent énormément de ce procès, mais les avocats, et pas seulement eux, disent beaucoup que malheureusement, ça risque d'être le procès de la frustration. Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'attentat est mort, que les autres sont
On avait dit pour le V13, c'est très le procès des lampistes, là plus que jamais.
Qu'il n'y a pas de co-auteur véritablement, qu'il y a, il a eu des complices, mais qui ne sont pas accusés d'être co-auteurs de l'attentat, et qui sont éventuellement poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs, etc. Oui. Donc les victimes, les proches des victimes plutôt, risquent d'être extrêmement déçus. Et au fond, la fonction de ce procès sera peut-être d'être, de permettre de libérer la parole, ouais, et que ces gens puissent parler. On a un peu ce sentiment-là ce matin.
C'est un peu ce que disait Maître Gérard Chemelin, qui était notre invité à 7h10. Son interview est à retrouver d'ailleurs sur europe1.fr. Emmanuel Ducrot, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, l'intérêt de ce procès est là, c'est qu'il ne dira pas une vérité factuelle. Il dira un point mémoriel. C'est comme poser une stèle, un procès comme celui-là. Et ce qui émerge, c'est un bas-relief. C'est-à-dire des morceaux de vérité qui émergent du vide, du creux, de l'absence d'auteur, de l'absence de parole. Il va falloir faire avec ça. Et je pense que pour les familles des victimes, c'est important de se retrouver probablement ensemble, de partager l'émotion, le drame, etc. Mais je crois qu'effectivement, ça ne refermera pas de plaie.
Voilà. Et c'est dans ce contexte, dont je reviens à mon lancement, c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin, mais il n'est pas seul, hein, le procureur national antiterroriste, tous deux, en l'espace de 48 heures, nous disent voilà, que revient la menace terroriste extérieure. Alors en ce qui concerne Gérald Darmanin, si on élargit un petit peu la photo, on voit que c'est aussi dans le contexte aussi de ce fiasco autour de l'imam Iqiyoussen, où il est en situation de fragilité politique. Hein, le pôle régalien du gouvernement qu'il incarne est pris en situation de défaite. Comment vous interprétez ça, Charles Dornelas? Il a des informations donc il ne peut partager, mais il a envie de.
Ça, j'en sais rien.
Il a envie qu'on fasse attention.
J'en sais rien parce qu'il ne m'a pas appelé pour me donner les informations qu'il ne nous a pas partagées à tous. Non, mais j'en sais rien. Moi, quand j'entends la menace terroriste revient, j'ai envie de leur dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tous les trois jours en fait un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là. Je rappelle quand même que l'État islamique a demandé à ces soldats, c'est-à-dire à n'importe qui veut être un soldat de l'État islamique pendant 2 heures, d'attaquer avec sa voiture, son couteau, partout où ils sont. Et on prend toujours ça de manière individuelle, en se disant « Ah, une attaque au couteau et tel profil », et on décortique le profil comme s'il n'appartenait pas à plus large que lui. Donc déjà, cette menace, alors évidemment, c'est pas aussi spectaculaire, on va dire, que le Bataclan, que les terrasses, ou que...
Pour résumer, vous dites, il ne faut pas aborder ce phénomène comme un juge d'instruction qui va s'arrêter.
Mais
sur
c'est ça.
Un événement, il faut avoir une lecture un peu plus large du
évidemment,
phénomène.
Et la question, alors moi quand j'ai regardé, j'ai épluché les profils qui sont au tribunal justement pour Nice, alors c'est que des profils de grande délinquance, de trafic d'armes en réseau, c'est que des réseaux en l'occurrence tunisiens et albanais, et donc ils s'échangent, et il y en a un pour se défendre qui dit oui je lui ai donné des armes et je savais pas que c'était pour faire un attentat parce que moi d'habitude je lui vends de la coke. Ah pardon, donc excusez-nous, on s'est trompé, c'était... voilà. Et donc on comprend que c'est des réseaux de gros trafic et de grand banditisme, et on a à la fois sur la question, vous citiez vous-même la question de l'imam, on a un Gérald Darmanin qui est empêtré, il n'y a pas la réforme de fond qui permet de rendre les expulsions beaucoup plus faciles pour les profils qui sont visés, et de l'autre, on a, et je fais peut-être un lien avec l'interview que vous avez fait ce matin, mais une réforme de la police qui précisément risque d'affaiblir les enquêtes extrêmement ciblées et spécialisée sur le grand banditisme au profit en effet de la petite et moyenne délinquance qui doit être gérée. Mais je sais pas, tout ça mis ensemble, on a parfois l'impression que les sujets sont traités, enfin même tout le temps, sont traités de manière séparée. Or là, franchement, ça fout le vertige en fait.
Et ce cloisonnement qui était précisément l'objet.
Soi-disant, c'est pour lutter contre. Bah, voilà. J'ai peur que ce soit pire même.
Exactement. Philippe Ball, vous voulez.
Oui, je veux dire une chose, c'est que ce que dit Charlotte est important, ces coups de couteau dont on entend parler un peu dans toute l'Europe, ils ont un sens politique.
Et
on est vite passé sur l'attentat contre Rushdie, qui est quand même énormissime, qui est un événement mondial. Et on a une difficulté. Rappelons-nous, après les attentats de Nice, il y a eu un débat. Faut-il en parler et comment, en quelque sorte, les photos, les commentaires, les noms du participant, etc. On s'est dit non, peut-être pas. On a un rapport terrible avec le terrorisme et avec sa cause politique qu'on ne veut pas nommer.
Mais qualifier les choses, Philippe. Quel est ce rapport
on ne veut
que
pas
nous avons
listes, par exemple, le président de la République.
On a parlé du camion fou. Hein. J'ai encore entendu le camion fou.
Le camion fou, il n'était pas fou, le camion. Oui. Il savait très bien ce qu'il faisait. Le président de la République, récemment, quand il a, après l'attentat de Rushdie, et la ministre de la Culture, n'ont pas dit le mot islamiste après l'attentat de Rushdie. je dis.
Ils comme ont François pas Hollande en 2015.
Ils ont, la politique qu'il y a derrière ces crimes, commis par des types sans doute très excités, mais on nous dit des déséquilibrés, on appuie sur le fait qu'ils sont, entre guillemets, déséquilibrés, mais ils sont politiques. Et donc, on ne veut pas parler de ça. C'est un vrai problème que l'on a. Après les attentats de Nice, ça a été un débat incroyable de savoir s'il fallait en parler ou non, de quelle façon. Vous vous rendez compte,
mais précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est la mission des hommes politiques, des responsables politiques. Et précisément, notamment ceux qui nous gouvernent. Oui. Parce que la justice, elle doit établir des faits. Donc, ils ont des rôles absolument différents. Mmh. Et un juge ne peut pas qualifier. Il peut dire que, par exemple, on est radicalisé, parce que ça, c'est dans la loi. Mais qualifier une idéologie, c'est beaucoup plus compliqué pour la justice. C'est le rôle des politiques. Mmh.
Mais malgré tout, j'insiste sur ce retour de la menace extérieure. Je trouve que ça n'est pas anodin quand même que, outre le ministre de l'Intérieur, je le répète, le procureur national antiterroriste nous dit « Regardons à nouveau ce qui se passe du côté de la Syrie, du côté peut-être aussi du Liban, peut-être aussi de la Libye, où ces mouvements terroristes que l'on pensait éradiqués, eh bien finalement
prospèrent
à nouveau, comme des mauvaises herbes. Voilà. »
Enfin, on espère que le renseignement extérieur est toujours, comment dire, très vigilant. Effectivement, ce que dit Gérald Darmanin, il a l'air de nous prévenir de nouveaux dangers. Oui. Il ne précise d'ailleurs pas exactement lesquels. Mais
parce que moi, il y a quand même qui me.
On n'a pas le sentiment qu'ils aient jamais disparu.
Une chose me frappe, c'est que Nice surgit 8 mois, pratiquement jour pour jour, après les attentats du 13 novembre. Et on se dit maintenant, on regarde ce qui s'est passé, c'est étonnant quand même que la promenade des Anglais n'ait pas été interdite, finalement, n'ait pas été interdite à la circulation, que ces camions aient pu rentrer. Ça fait partie des choses qui vont être discutées autour du procès, pas précisément dans le procès. Mais quelles leçons a-t-on tiré finalement des attentats précédents? Est-ce que les failles dans le renseignement, dans le suivi de ces profils radicalisés qui sont partis en Syrie par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on l'a intégré? Est-ce qu'on le suit bien? Ça fait partie des questions qui sont posées.
Oui, je sais pas en fait que, quand il dit qu'il y a un retour du terrorisme, est-ce que c'est par rapport à ces dernières années? Alors évidemment, le Covid, il y a eu un truc qui a été quand même assez pratique sur le retour des djihadistes, et la fermeture des frontières. Je veux pas... juste avant le Bataclan, on nous expliquait que c'était une idée saugrenue, qu'évidemment, ils n'allaient pas arriver par le flux des gens. Il y a encore des personnes qui sont interpellées parfois dans le flux de ces réfugiés qui ont des profils totalement terroristes. Donc il y a évidemment cette question-là qui se pose avant, qui me paraît être la question de base par rapport à une menace extérieure, avant d'aller mettre des plots partout et de rendre toutes nos vies impossibles. Parce que la question que vous posez sur la question du camion, elle est évidemment légitime. Et en même temps, on se dit, mais jusqu'où on va dans nos vies quotidiennes? C'est très compliqué aussi de faire cette dose-là. Et je pense qu'il y a quand même des mesures qui me semblent essentielles et efficaces avant celle-ci.
Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. Merci Carole, à la semaine prochaine. Et Philippe Vandel et Emmanuel Ducrot qui sont restés tous les deux.
Philippe Val, parce que Philippe Vandel, il est là.
L'année dernière, je me suis planté à chaque fois. Merci Philippe Val. Et Philippe Vandel, que l'on accueille pour Culture Média dans 5 minutes. Bonjour.
Oui,
Philippe,
je viens d'arriver. Bonjour Dimitri. Vous connaissez Marmiton? Vous l'utilisez ou pas?
Ah oui, le site internet.
Voilà, j'ai posé la question à Dimitri et c'est Charlotte qui a répondu. Bien sûr, tout le monde connaît.
Énorme fan de cuisine.
Numéro 1 des sites internet de cuisine. Eh bien, il se lance aussi dans l'édition Marmiton, la cuisine étudiante en 20 minutes, c'est prêt. C'est d'autant plus étonnant qu'ils fassent de livres papier que quand ils se sont lancés, c'était justement pour être autre chose que des livres papier. On leur posera évidemment cette question. On va parler de la toute nouvelle télé-réalité W9 qui démarre ce soir. Ça s'appelle Les 50. Cette fois-ci, ils ont réuni non pas 10, non pas 15, non pas 20, mais 50 garçons et filles de la télé-réalité dans la même maison. Comment ça se passe?
C'est le super loft.
C'est exactement, c'est entre le loft, Squid Game, Koh-Lanta, il y a à la fois.
Ils s'entretuent en plus dans le...
Non, mais ils s'embrouillent bien. Non, c'est de la télé-réalité. On sera avec la productrice et directrice de Banijé, Florence Fayard, et une candidate emblématique des anges de la télé-réalité, Amélie Nathan, celle qui a manqué s'évanouir en voyant Kim Kardashian pour de vrai. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu La Maison d'Emma Becker, roman dans lequel elle racontait 2 ans et demi d'expérience où elle faisait la prostituée, la pute comme elle dit, dans un bordel de Berlin. Expérience heureuse, dit-elle. Voici son nouveau roman, ça s'appelle L'Inconduite, et c'est tout aussi sulfureux et intelligent et profond. C'est pas un livre de fesses.
Merci Philippe, bonne émission. Culture Média démarre dans 5 minutes. Europe Matin, 7h-9h, revient demain matin, 7h. Donc bonne journée à toutes et à tous.